Dans le Tempo, épisode 61, est-ce qu'on vit actuellement un âge d'or de la musique? On en parle avec Étienne Menu d'Audimat et Musique Journal. C'est parti. Thomas présente. Dans le Tempo. T'as vu, Das, elles sont de plus en plus longues, ces phrases d'introduction.
C'est génial, hein. Avant, on disait juste le numéro.
Tu penses que tu préfères quoi?
Moi j'aime bien les deux.
C'est vrai?
Moi j'aime bien les deux. Je pense qu'il faut faire un petit peu de variation.
Dites-nous en commentaire.
Ouais,
est-ce
que
vous préférez l'introduction version longue ou courte? Engagement, Daz.
Ouais, non, mais c'est bien, c'est bien.
Abonnez-vous aussi. On le dit jamais ça. Il faut le faire.
Non, c'est vrai. Abonnez-vous.
Abonnez-vous.
Notamment à ma chaîne YouTube.
Non, ça n'a rien à voir.
Ok, pas à la mienne.
Les 5 étoiles. Enfin, vous pouvez aussi, mais en plus.
Oui.
Les 5 étoiles sur les plateformes de podcast et compagnie.
Les pouces, tout ça.
Exactement. En tout cas, bienvenue dans DLT. Vous le savez, c'est le podcast des passionnés de musique. Tous les 15 jours, on se retrouve avec des artistes, des professionnels, des gens d'expérience, expérimentés,
des érudits.
Comme Étienne, par exemple, qu'on reçoit aujourd'hui.
Incroyable, Étienne. Alors, Étienne, bonjour, qui es-tu?
Je suis un érudit, bonsoir.
Très bien. T'aimes bien cette présentation? Est-ce que tu l'utiliseras dans le quotidien?
Bien sûr.
Bonjour, je suis un érudit.
Les gens dans la rue m'appellent comme ça.
L'érudit, bien sûr.
Voici l'érudit.
Merci beaucoup, en tout cas, d'être avec nous, Étienne.
Ça me fait plaisir d'être ici, merci beaucoup de m'inviter.
Écoute, je voulais parler depuis longtemps de cette revue fantastique qu'est Audimat, que tu as cofondée. Tu fais d'autres choses aussi dont on va parler. Et puis, au fur et à mesure, en discutant, on s'est dit qu'on pouvait même peut-être être dans un sujet un peu plus global sur le rapport qu'on a à la musique aujourd'hui, sur la place qu'elle a. Et surtout, moi, je me pose une question, c'est est-ce qu'on a une forme de chance aujourd'hui en tant qu'auditeur de musique de pouvoir accéder à beaucoup de choses? Est-ce que c'est si varié que ça? Est-ce qu'au contraire c'était mieux avant? Parce que parfois certains
c'est pour les viewers du Figaro et les éditeurs qui lisent le Figaro par ailleurs, hein. n'hésitez pas à nous dire si vous préférez avant la musique c'était mieux quand on n'en faisait pas même.
c'était mieux
avant.
Bon, en tout cas on va s'appuyer sur ton expérience et ton regard, notamment à travers Audimat et Musique Journal. J'en parle d'ailleurs rapidement. Parce que en 2012, avec Guillaume Huguet, vous cofondez justement donc cette revue que j'ai là entre les mains. C'est quoi? Ça sort tous les trimestres à peu près, Audimat?
Tous les semestres. C'était annuel les trois premières années et on est passé semestriel en 2014.
Ouais.
C'est une revue, donc comme vous pouvez le voir, une revue format poche qui ressemble un peu à un livre, en fait, mais qui est très souple et qu'on peut mettre comme ça dans sa poche, littéralement. On peut la prendre dans le métro et tout. Je suis très fan et je le dis parce que j'en suis pas du tout responsable. Donc je suis très content de ce format. Je félicite notre directeur artistique, Pierre Vanny. Et c'est une revue, en fait, au départ, on voulait, Guillaume et moi, on était très, on lisait beaucoup de presse anglo-saxonne sur la musique et de livres, en fait, sur la musique écrits par des journalistes ou des universitaires ou des journalistes universitaires, etc. Et au départ, en fait, on voulait juste faire une sorte de best-of donc pas éditer des livres en entier, mais choper des articles ou des chapitres de livres existants pour les rassembler et faire découvrir au public français ces auteurs américains, anglais, parfois allemands, espagnols, etc. Et puis en réfléchissant au sommaire, on s'est dit que tant qu'à faire, on pouvait aussi essayer d'écrire nous-mêmes et de faire participer des auteurs et autrices françaises. Et donc ça s'est transformé en cette revue qui est donc à chaque numéro mélange des articles traduits de l'anglais et des auteurs et des articles originaux français.
Et puis en parallèle de cette activité, Audimat c'est aussi une forme de maison d'édition puisque vous traduisez notamment des livres que vous éditez ensuite.
Oui.
Trappe c'est plus dans l'esprit de la revue habituelle.
Exactement.
Parce que c'est un ensemble d'articles mais absolument passionnant sur la musique trappe effectivement. Mais par exemple, on a celui de Reynolds, qui est, c'est celui, par exemple, tu peux nous en parler d'ailleurs, si tu veux quelques mots, sur la musique électronique absolument passionnant.
Ouais, alors Simon Reynolds, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un auteur anglais qui vit aux États-Unis depuis plusieurs décennies maintenant, mais qui est donc fondamentalement anglais. Et ce livre en particulier, Hardcore, ça parle pas de la techno hardcore à proprement parler, mais ça parle, disons, de ce qu'on a appelé le hardcore anglais au début des années 90, qui a donné ensuite la jungle et le drum and bass, et ce qu'il appelle le hardcore continuum, qui va jusqu'au dubstep, au two-step, au UK garage, au grime. et qui aujourd'hui existe encore. D'ailleurs, il y a une sorte de revival de la drum and bass dans
ces rythmiques breakées, etc.
Voilà.
Ouais.
Et c'est en fait c'est un recueil d'articles qu'il a écrit du début des années 90 jusqu'à assez récemment en fait, où il revient parfois sur il change parfois un peu d'avis sur ce qu'il avait pu dire à l'époque. Simon Reynolds, c'est pour moi vraiment un des auteurs les plus marquants. Et moi, en fait, en tant qu'auteur moi-même, c'est un peu ma référence totale. Quoi.
Bon, vous l'avez compris, Audimat, c'est... D'ailleurs, on pourrait, parce qu'il y a un exemple que j'aime bien, c'est vous venez de sortir Maxi, qui en fait...
Un
best-of, vous reprenez les articles marquants depuis votre existence. Mmh. Bah oui, ça fait quoi? Ça fait 12 ans maintenant, ouais. Quasiment, Audimat. Ouais. Donc, je prends juste le sommaire de Maxi, parce que ça donne une petite idée un peu de la diversité d'articles que vous avez pu aborder. Alors, je vois, par exemple, le spleen de l'argent chez Drake, qui avait été initialement publié dans un grand quotidien américain, je crois, non? C'était pas dans le New York Post? Non, pas le New York Post.
Je sais plus si c'était le New York Times ou le New Yorker, en tout cas. Ou le Guardian, je suis désolé, tu me prends un peu.
Mais en tout cas, c'est un article qui a marqué, j'en ai entendu parler, j'ai pas eu l'occasion de le lire malheureusement, faudrait que je prenne Maxi, mais ouais.
C'est un article écrit par Mark Fisher, qui hélas est décédé depuis en 2017, et qui en fait est un auteur qui s'est vachement, enfin entre autres, intéressé à ce rapport, disons, à la richesse chez un rappeur comme Drake, mais c'est pas le seul, et à cette espèce d'effet de blues que tu peux avoir et qui est très présent chez Drake, ou en tout cas sur certains morceaux de Drake. Et la méthode de Fisher, c'est lui, il est très pétri de pensées disons néo-marxistes, etc. Et donc il s'est intéressé à l'espèce de valeur, enfin il propose une lecture disons néo-marxiste de ce rapport à l'argent, à l'ennui, au narcissisme un peu comment dire, un peu cassé, qui est celui, enfin qui est un peu une des fibres principales de la musique de Drake, quoi.
Et dans Maxi, on retrouve aussi alors un article par exemple sur le thrash metal, orgy pop et gesticulation outrée. On a aussi l'ère du glitch, un article sur l'Italie 70, musique légère, année de plomb. Enfin, on voit à travers, je vois aussi notre ami Raphaël Dacruz, l'âge de platine du rap new-yorkais, aimer le punk en féministe de Helen Willis. Bon, c'est extrêmement varié. C'est un truc qui détermine d'ailleurs un peu votre approche de la musique de manière générale. C'est musique plutôt populaire de manière générale, par contre.
Ouais, pas trop de classique ou de musique purement académique, savante, etc. On parle pas beaucoup de jazz non plus. On a un tout petit peu parlé, mais sinon, oui, c'est... En fait, moi, je parle en mon nom, mais je pense que Guillaume sera à peu près d'accord avec moi. La pop, j'envisage ça comme... pour moi, la pop, c'est pas juste Ariana Grande, Céline Dion, c'est le rap, la techno, même d'une certaine manière, toute une partie des musiques dites expérimentales et aujourd'hui écoutées comme de la pop, sous forme assez rapide, etc. Donc en fait, Guillaume et moi, on a toujours eu des goûts assez larges, et donc on n'a pas voulu se cantonner à une niche, et surtout on aime bien aussi demander l'avis de gens qui s'intéressent à des choses qui ne nous intéressent pas forcément au départ, et d'avoir comme ça le maximum de résonance à travers ce grand spectre de la musique.
Bon, c'est complètement DLT compatible, c'est la diversité.
Mais du coup, alors, donc tu disais, c'est des articles déjà écrits et aussi des articles.
Les articles anglo-saxons, la plupart sont effectivement déjà écrits. Après, il y en a une partie qu'on avait commandée. Il y a dans notre premier numéro, et c'est présent dans le best-of Maxi, on a un article d'un journaliste australien qui s'appelle Tim Finney, qui s'est intéressé à la UK funky, qui est un peu ce style, un style en fait qu'on connaît d'oreille mais qu'on n'identifie pas forcément par un nom, qui a été assez gros en Angleterre à la fin des années 2000, début 2010. C'est notamment il y a un des classiques de UK funky qui a été samplé dans One Dance de Drake. C'est une musique assez sucrée, assez syncopée, et qui en même temps a quelque chose de très qui vient vraiment de la bass music très très agressive, quoi. Et Tim Finney fait une sorte d'analyse, c'est un article assez technique, mais en même temps qui montre, disons, que cette musique de dance de club qui peut passer pour purement fonctionnelle peut générer des idées et des manières d'envisager l'articulation de tout ça de manière assez stimulante, je trouve.
Ce qui est intéressant, c'est que en parallèle donc de ton travail avec Audimat, toi tu es aussi le rédacteur en chef de Musique Journal, qui est un média musical en gros sous forme de site web de recommandations musicales. T'écris chaque semaine plusieurs articles avec des auteurs aussi.
J'écris pas trop en ce moment, je reconnais sans problème. mais effectivement, on l'a lancé en 2019, donc complètement au sein de Audimat. C'est vraiment le même. Enfin, il y a des gens qui écrivent pour Audimat, qui écrivent pour Musique Journal et vice versa. L'idée, c'était de faire un truc qui parle pas forcément d'actualité, même si on parle de ça nous arrive de parler de nouveautés. Mais disons qu'on n'a pas voulu se mettre sur un créneau de type média comme comme tous les médias, notamment rap français, qui suivent l'actualité de très près. On s'est dit que c'était déjà que le travail était déjà assez bien fait et qu'on n'était pas forcément utile. Même si on a parlé un peu, même si on parle un peu de rap français à l'occasion. Et surtout, on parle de disques pas forcément hyper obscurs, mais en tout cas méconnus, que les gens n'ont plus le réflexe d'écouter, des années 70, 80, pas mal de musique française aussi, de la pop FM, qui pourrait paraître un peu des choses qu'on entend vaguement ou qu'on a entendu vaguement dans sa voiture ou au supermarché, et où on va se rendre compte en écoutant l'album qu'il y a, un producteur hyper intéressant qui s'est associé au truc. Et enfin voilà, c'est une histoire de curiosité un peu gratuite. Parfois, je vais diguer des trucs qui finalement sont nuls, hein, mais donc j'en parle pas. Mais cette espèce de réflexe d'aller chercher des choses parmi des grands corpus musicaux un peu inconnus, c'est un truc qui nous excite vachement et on essaye de l'exploiter au maximum.
Bah, d'autant plus que ça manque un peu ces recommandations humaines, entre guillemets, éditorialisées. On va sur ce site et chaque semaine, on découvre des albums à écouter, originaux, tu vois. Et ce que j'aime bien, c'est que ce soit avec Musique Journal ou Audimat, vous êtes à la frontière entre les marges et le populaire, c'est-à-dire que vous vous intéressez à des mouvements plus underground, méconnus, et puis en parallèle des icônes pop, effectivement. Et puis aussi, dans le ton et l'approche entre un truc intellectuel et en même temps pas élitiste, c'est-à-dire que vous pouvez vous appuyer sur le monde universitaire, mais aussi un truc beaucoup plus simple. Donc j'aime bien ces mélanges comme ça.
En fait, pour moi et pour Loïc Ponceau, qui est mon adjoint, entre guillemets, maintenant chez Musique Journal, en fait, on part du principe que la musique, c'est quand même un art simple et accessible qui est en fait assez beaucoup plus. Pas beaucoup plus, mais plus que le cinéma ou que l'art ou que la littérature.
Universel,
voilà, il y a quelque chose de... En fait, je pense qu'on peut quand même assez simplement convertir des gens à des choses qu'ils connaissent pas. Et donc, c'est pour ça qu'on essaye d'employer un ton. On évite d'être spécialiste, même si après, on fait pas non plus de la grosse vulgarisation.
Audimat, ça reste exigeant,
exemple. Bien sûr,
sans être chiant, mais c'est un peu exigeant.
C'est exigeant. Avec Musique Journal, on essaye, comme c'est un truc quotidien, on essaye d'être dans un rapport un peu plus direct aux auditeurs, aux lecteurs et des potentiellement auditeurs, mais ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir en fait dire vous connaissez peut-être pas, on vous en parle, on va pas vous faire tout l'historique du truc, mais voilà, il suffit de cliquer, écouter en même temps, vous allez voir, ça va peut-être vous plaire. Et cette chanteuse rhythm and blues qui fait du gospel dont vous auriez jamais entendu parler par Spotify, là, allez-y, écoutez, vous allez voir, ça va peut-être vous ambiancer.
Bon, Audimat, en tout cas, Daz, meilleure revue musicale, honnêtement, en France.
C'est très cool. Mais donc ça se trouve en librairie?
En librairie et chez des disquaires aussi.
Ok.
Donc on les trouve même à la Fnac, les Audimat.
Oui. Ouais, on les trouve. On trouve les éditions Audimat, les livres. On les trouve. Les revues, je sais plus exactement. Mais je pense qu'on. Enfin, maintenant, oui, on est quand même vachement bien. On a été longtemps auto-distribué et là, depuis 3-4 ans, on a un distributeur et un diffuseur, donc on est beaucoup plus visible qu'avant.
Bon, pour terminer un peu ton CV, entre guillemets, tu as produit aussi des émissions sur la musique pour Radio France, pour Radio Campus. Il y avait eu aussi une expérience vidéo qui était cool, qui était très liée à Audimat, d'ailleurs, Musique Info Service. Oui. Et on retrouve les épisodes encore aujourd'hui sur Dailymotion, où en gros, c'était un truc qui manque, c'est vrai, je pense que c'était votre réflexion sur le moment, ce côté table ronde, critique musicale, on s'arrête sur un album. En gros, c'est un peu, de manière rapide, le masque et la plume. Et ça, c'est vrai que c'est un truc qui se fait assez peu. On prend quelques experts autour d'une table et on discute d'un album avec un regard critique.
Ouais, c'était une émission que Dailymotion en fait nous avait proposé de faire à l'époque où Dailymotion avait un studio.
Ils arrosaient, ils arrosaient tout Paris.
Non, mais ils avaient ouvert un studio dans le 6e où il y avait aussi l'émission de Techie qui s'appelait Maximum Overdrive Infinity, où c'était une sorte de pré-boiler room, etc. Et en fait, dans ces studios, donc nous on avait opté pour le noir et blanc et on faisait, c'était moi qui animais, je recevais des journalistes, mais pas uniquement des journalistes, on recevait aussi un peu des amateurs, entre guillemets, quoi. Et on parlait de sortie. Ce qui s'est passé, c'est que sur le coup, en fait, on faisait très peu de vues. Et Dailymotion était, au bout d'un an, nous a dit, vous êtes limite mignon. Mais voilà, ils nous payaient. Hein, on faisait des piges, etc. Et après, ils nous ont dit, bon, vous pouvez continuer à faire... on peut continuer à vous filer le studio, mais on ne peut plus vous payer. Et ensuite, leur studio a brûlé.
Ouais. Mais oui, on en a déjà parlé dans cette émission. Ouais, effectivement. Pas mal de gens ont perdu une partie de leur taf. Sur le moment, en tout cas, ont pu collaborer parce que ça avait cramé.
On a toujours... Il y a des soupçons hein, quand même sur...
Ah, tu penses? Oh, non. T'as déjà entendu les rumeurs?
Bah, sur le studio Dailymotion qui crame.
C'est YouTube?
Mais c'est 100%. Non, mais 100% c'est Dailymotion qui l'a fait cramer pour se sortir de ce guépier, là, bien sûr.
Alors, ça n'engage que Daz.
Ça n'engage que moi.
S'il doit y avoir procès, c'est lui qui va attaquer.
Arnaque à l'assurance.
Ouais, bien sûr. Nous aussi, par ailleurs, on avait à l'époque de Studio 404. On avait fait des lives dans le studio de Dailymotion.
Ah, très bien.
Nous aussi, on a croqué.
Mais d'ailleurs, Dailymotion qui se relance. De manière,
ils sont jamais morts.
Ils ont jamais arrêté, mais le côté public, parce qu'en fait, c'est eux qui faisaient notamment les players, tu sais, de Canal+, etc., de groupe, parce qu'en fait, c'est le même groupe. Mais le côté grand public, on upload, on découvre des vidéos, etc., sur Dailymotion, ils l'avaient pas mal mis de côté pendant des années. Et là, ils reviennent avec une nouvelle approche éditoriale, voilà.
Il va falloir s'accrocher quand même.
C'est vrai. Mais écoute, soit tout
leur
bonne
chance. Tu sais qu'à une époque, t'avais vraiment une... potentielle rivalité d'égal à égal entre YouTube et
bien
Dailymotion.
Sûr. C'était... Oui, acteur français d'ailleurs, on précise, ouais. Dailymotion, etc. Mais qui ensuite s'est fait bouffer.
Ah, là, ça va être compliqué. Tu reviens en 2024, il faut vraiment avoir une proposition incroyable. Hein.
Mais bah, ils avaient démarré, je crois, un tout petit peu avant YouTube.
Je serais pas étonné.
C'est ça, en fait, c'est pour ça qu'ils...
Ou alors, au moment où YouTube a démarré, mais YouTube n'était pas encore acheté par Google.
Voilà, et c'était...
Ça, c'est sûr.
En gros, YouTube était pas encore un acteur majeur de la vidéo en France, et Dailymotion, donc, avait une sorte de boulevard qui les attendait. Et,
tout comme, je crois que Deezer, à quelques mois, sort avant Spotify.
Quoi. Et oui, mais comme, Minitel, comme le TGV, comme le Rafale, nous, on fait des trucs bien, mais après, on sait pas le vendre. Et voilà, c'est la France, les gars.
Dur.
Eh oui.
Bon, les gars, juste...
Mais donc, cette émission pour...
Pardon.
Ce qui est drôle, c'est qu'on a arrêté en 2015 et j'ai effectivement souvent des gens qui me disent « Elle était super cette émission !»
Mais personne ne la regardait.
Il y a même quelqu'un qui m'a dit « Tu l'as fait encore ?» Je lui ai dit « J'ai arrêté depuis 2015 quand même, tu pourrais un peu suivre mon actu. » Tu vois, c'est... Et je vois que des gens rematent et se disent « Ah, c'est sympa et tout. » Ensuite, avec le recul, enfin surtout avec les années, je pense que ça pourrait continuer à se faire, mais il faudrait qu'il y ait peut-être un format un peu moins à l'ancienne et enfin, je sais pas exactement, mais là, le truc de donner nos avis, en fait, faudrait aussi, faut avoir un personnel quand même qui écoute beaucoup de choses, qui puisse être à la fois expert et qui, parce que là, il y avait souvent un peu un défaut de gens qui disaient, bon, moi, de toute façon, c'est pas mon style de musique, j'aime pas trop, machin. Donc, c'était parfois un peu des antagonismes bruts où on est là, bon, ok, on a compris, t'as pas aimé. J'avais parfois un peu de mal. Et en plus, il fallait que je trouve des sujets chaque semaine.
Tu ramais, du coup, pour...
Donc il y avait un truc un peu bon. Après on a beaucoup rigolé, c'était super, on pouvait cloper et boire à l'écran et tout, donc c'était vraiment génial. mais c'était par ailleurs un truc un peu fastidieux à mettre en place, même si ça me plairait beaucoup de recommencer sous une autre forme.
Une solution, enfin je sais pas si c'est une envie pour vous, hein, mais c'est, on sait que l'audio est quand même moins exigeant en termes de besoins techniques.
Moi-même, etc. Je préfère, en fait.
Ça peut être une solution.
Mais d'ailleurs, ça avait démarré comme une émission audio sur Radio Campus, qui s'appelait l'Agence Tout Disque. Excellent jeu de mots.
Oh là, pas mal. Ah oui, pas mal.
Bon, je vous propose qu'on rentre vraiment dans le vif de notre sujet, les amis, oui. Avec cette première partie. Donc, je le rappelle un peu à travers votre expérience d'Audima, de Musique Journal, etc. Se questionner un peu sur où en est la musique, en fait, d'une certaine manière. Et est-ce qu'on a de la chance de vivre à notre époque pour découvrir de la musique? Et le premier axe que j'aimerais qu'on prenne, c'est celui de la diversité des esthétiques. Mmh. Parce que justement, dans Audima, dans Musique Journal, c'est on ouvre le plus possible, on pioche à gauche et à droite des trucs qui n'ont pas de rapport entre eux, quoique, à questionner justement. Et le premier truc que j'aimerais te demander, parce que tu l'as abordé dans l'introduction, c'est ta notion de musique pop, de musique populaire. Qu'est-ce qui rassemble en fait tous ces courants musicaux dont vous pouvez parler? Est-ce qu'il y a un truc commun à ton avis dans tout ça?
Ça vend.
Non, justement, pas toujours.
c'est streamable. C'est déjà, c'est en streaming. Non, mais ça pour le coup, Musique Journal, par exemple, on parle pas de disques qui sont pas disponibles en streaming.
Ah oui, c'est une question que j'avais posée.
Ouais, c'est, enfin, c'est bien ça m'est arrivé recours, deux mais... ou trois fois de faire moi-même des uploads YouTube ou SoundCloud pour écouter, parce que c'était vraiment des disques où je tenais. Mais ensuite, ça m'est arrivé plusieurs fois de dire, ouais, c'est, il est super ce disque, mais on peut pas l'écouter, on peut pas le mettre, on peut pas en parler. Le point commun, honnêtement, je sais pas. Après, c'est des trucs très très basiques sur la musique et le format chanson, mais c'est même au-delà, encore plus radical que la chanson, c'est l'air en fait, quoi. En gros, c'est à partir du moment où tu retiens un air, même si cet air c'est une rythmique ou une ligne de basse hyper vénère, je pense que moi, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Je me dis que même quand ça m'arrive d'écouter du classique ou du jazz ou des musiques qui, disons, qui sont extra pop, ce que je retiens, c'est le thème. Ouais. C'est le gimmick, quoi. En tout cas, le hook, entre guillemets. Et je pense qu'il existe des hooks même dans de l'ambiance, même dans de la noise, même dans des trucs hyper, disons, informes. Moi, je sais que, par exemple, il y a des disques de musique expérimentale que je peux vraiment écouter comme j'écouterais Drake. En tout cas avec le même élan. Et il y a d'autres trucs où ça m'intéresse pas, alors que je sais que c'est pas si éloigné, mais je sais pas pourquoi j'ai un amour particulier pour tel disque et pas tel autre. Quand je disais c'est de la musique en streaming, c'est aussi ça, c'est qu'effectivement on parle aujourd'hui, enfin c'est quand même le lieu où c'est écouté, même si on y reviendra, il y a les concerts qui sont un autre lieu d'écoute, mais qui est une écoute un peu hybride entre la communion et la fête, la relation sociale, etc. Mais en tout cas, c'est de la musique qui se trouve être disponible sur, que ce soit Bandcamp, YouTube ou les plateformes. C'est quand même ça le point commun. Il faut que ce soit facile à trouver et facile à retenir. En gros, c'est un peu ça. Mais ensuite, j'ai plein de paramètres personnels qui font que je ne vais pas du tout écouter des trucs et en écouter à fond d'autres. Mais c'est un peu plus...
Est-ce que tu donnes quand même une définition? Parce qu'on disait que vous traitez un peu moins des musiques dites savantes. Qu'est-ce que tu rassembles derrière la bannière musique pop ou populaire? Parce qu'en plus, il y a le sens anglo-saxon. Ouais. Et j'ai toujours l'impression qu'on a eu un peu du mal en France à complètement se l'approprier, à savoir ce qu'il définit exactement, ce terme de pop.
Populiste.
C'est
Maréchal, nous voilà.
C'est vaste, je sais.
Non, mais c'est une question hyper intéressante et à laquelle j'ai justement pas mal réfléchi ces derniers temps, parce qu'effectivement, la musique populaire... c'est pas forcément la pop des charts.
Absolument.
La musique populaire, historiquement, c'est même de la musique qui n'est pas forcément disponible sur des disques et en radio. Ça peut être
les chansons
traditionnelles de telle ou telle région. Ça peut être des pures expériences sonores comme les sound systems, etc. Enfin, en fait, comment dire, un sound system, par exemple, si tu vas écouter un par un les morceaux chez toi ensuite, t'as pas la même expérience que sur place à Notting Hill ou je ne sais où, tu vois ce que je veux dire, c'est pas pareil. Ensuite, il se trouve que une grosse partie de la musique populaire est devenue une partie de la musique pop. Un truc auquel je me suis fait la remarque il y a pas très longtemps, c'est par exemple l'importance dans la musique américaine de son passé Broadway, comédie musicale, et ce qu'on appelle le Great American Songbook, en gros cette espèce de mélange de jazz, Gershwin, et de musique chantée qui est en fait une pièce de théâtre chantée. Et en fait, cette musique, notamment on parlait d'Ariana Grande tout à l'heure, je trouve que Ariana Grande, par exemple, dans la manière qu'elle peut avoir parfois de parler entre les couplets ou de faire des sortes d'intro, etc., je pense que cette espèce d'inconscient musical, c'est un terme plutôt britannique, mais disons du musical theater et des classiques de Broadway, est vachement fort dans la musique américaine, à un point où nous, Français, on s'en rend pas forcément compte parce que on connaît assez mal. C'est une toute petite culture en France, la comédie musicale, alors qu'aux États-Unis, tout le monde connaît plus ou moins ça. Et tu vas avoir des morceaux de rap ou de funk qui reprennent des gimmicks de grosses comédies musicales, je sais pas, que ce soit West Side Story ou Oklahoma, etc. C'est quelque chose qui est hyper présent dans les films aussi. On voit souvent des gens qui entonnent ce genre d'air. Et je pense qu'il y a cette musique populaire américaine qui est importante. La musique populaire en France, elle a une définition un peu plus, c'est un peu plus compliqué. Il y a, plus compliqué, non, mais c'est moins mainstream en fait, quoi, tout simplement. Il y a une partie, il y a une scène un peu, le terme expérimental me convient pas, mais en tout cas une scène, disons, do it yourself et un peu, disons aventureuse, je sais pas comment dire, avec
pense
un groupe,
quoi,
il y a un ouais. groupe qui s'appelle France qui est assez qui est un peu le un gros enfin c'est un petit groupe au sens de l'écoute, mais c'est un groupe qui a une importance majeure depuis 10-15 ans, ou la Novia par exemple, qui sont des groupes qui eux vivent carrément en Auvergne, dans le Massif Central, etc., et qui s'inspire vachement des traditions musicales du coin. Mais effectivement, le résultat est pas pop. C'est hyper cool à écouter. Et enfin, en gros, pour résumer, c'est des groupes qui font pas mal de live, qui ont aussi une culture vachement de la musique improvisée, et qui en fait se servent de ce patrimoine, donc que ce soit auvergnat, breton.
C'est-à-dire quoi, il y a des genres du biniou, des
ouais, trucs. C'est, ça peut être ça, mais c'est aussi en fait c'est fait avec une sensibilité de gens qui ont écouté du rock et des musiques électronique et de la chanson, etc. Et donc, en fait, c'est pas non plus un truc rétro. Ouais. Ils sont pas en costume,
c'est
etc.
C'est intéressant,
quoi.
Parce que justement, il relie ce côté musique populaire plus folklorique, traditionnelle, à justement cet imaginaire pop et qui les ont nourris forcément.
En tout cas, ils sont dans un circuit un peu pop, au sens où ils ont parfois des projets qui sont un peu plus orientés, format chanson, mais c'est quand même souvent un peu des sortes de longues plages expérimentales. On en parlait beaucoup, on en a pas mal parlé dans Musique Journal, mais c'est plutôt Loïc en fait, qui est Loïc Ponceau, mon adjoint, qui connaît très très bien cette scène et qui fait même en fait sa thèse là-dessus, si tu veux tout savoir, en ethnomusicologie. Mais tout ça pour dire que la différence entre musique populaire, musique pop, moi je dirais que la musique pop c'est plus un objet commercial, une marchandise. La musique populaire c'est plus quelque chose qui ferait partie d'une sorte d'inconscient collectif plus ou moins prononcé chez les gens. Et ensuite t'as la question du folklore, je parle pas de la musique folklorique mais du folklore, au sens où par exemple la musique est utilisée aussi comme lien social très 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 fort, et qu'en fait je digresse un peu, mais et que c'est pas forcément une musique qui est écoutée avec les mêmes principes que t'écoutes de la pop. C'est-à-dire que par exemple, j'en sais rien, la rumba congolaise, un nouvel album de Papa Wemba, les gens se disent pas « Ah, est-ce qu'il innove sur ce nouvel album, Papa Wemba ?»« Ouais, c'est un peu pareil que le dernier album. » Non, c'est pas trop le délire, en fait. Il y a un truc aussi d'entretien d'une
continuité,
sorte de,
ouais.
voilà, de continuité, de musique qui fédère, d'un personnage qui incarne quelque chose, qui incarne...
Qui va défendre sur scène, surtout.
Et à fond, c'est de la musique qui se joue sur scène, tu vois. Dans un autre délire, un groupe comme Kassav, par exemple, c'est un groupe qui a en gros sorti plein de tubes à une époque et qui a continué à remplir Bercy et compagnie alors qu'on savait pas forcément quel était leur dernier tube, quoi, tu vois, leur dernier single. Et c'est aussi à ça que je pense dans l'aspect, et je dis pas folklorique au sens folklore un peu péjoratif, je parle d'une musique, disons, qui se consomme d'une manière vachement différente de t'es devant ton ordinateur, t'écoutes la nouveauté, tu vois ce que je veux dire.
J'aime bien cette idée de distinction entre, je disais, parce qu'il y a ce terme anglo-saxon de pop music à la base, qui correspond vraiment, tu disais, aux charts, globalement ce qui est mainstream, et notamment qui parle souvent à la jeunesse. La pop culture naît avec la jeunesse, quand la jeunesse commence à avoir un pouvoir d'achat, et on commence à la cibler d'ailleurs d'un point de vue commercial, industriel, et c'est encore valable aujourd'hui, et on fait de la pop en France au sens pop music, mais il y a ce côté aussi effectivement le spectre des musiques populaires qui lui est beaucoup plus large, dans lequel on peut intégrer la pop music, mais pas seulement. Et c'est vrai qu'on dit pop, parfois on s'est dit...
Est-ce qu'on serait pas à deux doigts de se dire que tout est pop en fait? À part une musique vraiment savante.
Tout peut être écouté comme de la pop. Ça, je suis d'accord. Ensuite, je pense que pour répondre à ta question de départ, je pense que dans la pop, en tant qu'objet commercial, il y a une idée de légèreté et une idée de musique qui se consomme, mais c'est pas grave de la consommer, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas grave d'être amoureux d'un morceau pendant un mois et de plus jamais l'écouter. Tu vois ce que je veux dire? Ça a pu me faire ça avec des albums, des morceaux, etc.
C'est
le fait que ce soit, entre guillemets, pas...
C'est fait pour être consommé.
Que ça s'inscrive pas dans un truc historique.
Mais c'est marrant parce que quand on dit ça, tu vois, c'est notamment ce que Mos Def a dit là dernièrement.
Putain, je voulais en parler.
Il y a une vidéo de Mos Def, donc rappeur.
Rapport à Drake, justement.
Iconique, si je puis me permettre. qui justement parlait de Drake en disant Drake en fait c'est de la musique de mec qui va au supermarché, quoi.
C'est de la musique pour faire du shopping,
c'est de la musique légère, tu l'écoutes, c'est cool. Maintenant, est-ce que c'est du hip-hop? Donc lui il se pose encore une autre question, c'est est-ce que Drake est hip-hop ou pas. Mais en fait, moi, le point de vue de Mos Def, je l'ai pas du tout pris négativement. Parce qu'il faut aussi de la musique comme ça. Moi, j'ai pas envie, à chaque fois que j'écoute un morceau, de me poser.
Il a quand même une mimique à la fin quand il dit it's likable.
Il est moqueur.
C'est Mos Def. Je veux dire, le mec, il faisait des cyphers. Tu vois, c'est un rappeur de freestyle aussi.
Il a pris l'exemple. Il est pas dit que tu mets en fond à la maison, à la limite, même pour faire ton ménage, ce serait limite plus noble que de dire pour aller faire les courses, tu vois. Il y a quand même un truc un peu de mépris.
Mais non, parce que d'un autre côté, on a justement, on avait eu cette trend TikTok de, je sais plus comment il l'avait appelé, mais c'était un genre de chop and screw, mais qui partait du principe que c'était de la musique dans un supermarché vide, tu sais, en fin de journée. Et du coup, ils te mettaient de la réverb dans tous les sens et machin, tu vois. Et en fait, bah, il y a rien, enfin. Il faut pas se sentir offensé quand on dit que ta musique, franchement, ça passe vachement bien à Auchan.
Bien sûr. Non, mais
parce que si ta musique, elle passe à Auchan, ça veut dire qu'il y a potentiellement tous les clients de Auchan qui écoutent ta musique.
Non, mais ça c'est vrai. Mais de la réduire à ça, ça peut être dur.
Oui, mais après Drake.
Tu vois. De toute façon, rien n'est dur pour Drake. Il a le succès avec lui, franchement.
C'est pas qu'il a été hyper offensé.
Non, je pense pas.
Mais si, il a répondu. Champagne Papy.
C'est vrai, il a attaqué Mos Def.
Il a attaqué Mos Def. Donc là, tu sais très bien que s'il va sur la confrontation lyricale, il est mort. Tu vois, donc il continue à faire des petites balades.
Est-ce qu'il est encore en banque?
Oui, mais en fait, c'est ça qui est très marrant. C'est que ces artistes-là, qui ont tout ce qu'ils veulent,
c'est la haute crédibilité.
C'est la crédibilité, c'est la reconnaissance des pairs. Et en fait, ils sont ultra vexés de pas l'avoir.
En vrai, c'était le mauvais exemple, Drake, en plus, parce que c'est un mec qui influence, qui a une esthétique qui lui est propre, en tout cas, qui l'a contribué à populariser. Mmh. C'est pas un artiste mineur, en fait, pas seulement
Mais c'est clairement un mec qui a envisagé sa musique comme une marchandise, commerce, et qui vient lui-même, qui a un background. Enfin, je veux dire, il était acteur, etc. Enfin, c'est quelqu'un qui a quand même le média dans la tête depuis qu'il est adolescent.
C'est le mec qui décide justement de faire certains pas de danse dans certains clips parce qu'il sait très bien que ça va devenir viral, etc.
Il a tous ses slides à l'époque.
Il comprend. Il a les codes du mainstream, les codes justement pour devenir mémable, en fait.
Bien sûr. C'est vrai.
Tu vois, normalement, un mème, c'est quelque chose qui est fait malgré toi. Tu vois, t'as une réaction en vidéo, c'est filmé, ça devient viral, c'est pris sur Internet. Que ça soit quelqu'un qui lui-même.
Le génère
en disant on va faire un mème de ce truc-là, tu te dis la posture, elle est quand même.
Alors, ça pose une question intéressante, tout ça, et qu'on s'est déjà posé d'ailleurs en DLT sans y répondre directement. Mais souvent, je dis que j'ai aucun problème avec cette musique pop mainstream commerciale.
Mais
à partir du moment où elle ne bouffe pas tout le reste.
C'est quoi le reste du coup? Parce que tout est pop.
C'est toute la production musicale, en fait, qui ne va pas avoir de réseau ou de lieu pour que ça puisse être mis en valeur, parce que l'industrie ne s'en est pas emparée, parce qu'elle est peut-être parfois plus exigeante, en tout cas plus difficile d'accès, et donc qu'il y a un petit manque d'éducation de la part des auditeurs, parce que c'est pas ce qu'on leur sert tous les jours, et donc c'est normal que dans un premier temps, ça tende un peu. Et je pense que cette musique, je sais pas, le terme exigeant peut être vu comme genre il y a une musique pour l'élite,
c'est
etc.
Ouais,
mais en tout cas, à laquelle on est moins habitué, alors qu'elle peut avoir une certaine
valeur.
De la
musique moins facile, tout simplement.
Et qu'elle peut nous apporter des choses, elle peut être mise en danger dans certains réseaux. Alors, justement, question. Est-ce que, à ton avis, parce qu'on parlait, je rappelle cette idée de est-ce qu'on vit une belle époque pour la musique, pour découvrir des choses, est-ce que face à ces mastodontes dont on parle, il y a de la place, à ton avis, aujourd'hui, pour d'autres propositions? Est-ce qu'il y a des réseaux d'écoute et de découverte pour ces autres propositions?
Je pense que oui. Je pense que on a évidemment qu'on soit quadragénaire ou adolescent, on a énormément de chances de pouvoir avoir accès à tout ça, et surtout les gens qui écoutent à fond Drake ou Kobalade ou je ne sais quel blockbuster ont aussi la liberté d'écouter autre chose. Je veux dire, ils sont pas obligés d'avoir ça dans leur caisse toute la journée. Et si, enfin, il y a par exemple les différentes modes de la jersey, de la hyper pop qui devient une sorte de courant du rap, alors que c'est quand même un truc un peu autonome au départ. Mais donc, je pense qu'il y a quand même les blockbusters peuvent servir de canaux vers autre chose. Ensuite, savoir si les gens vont s'y intéresser avec autant de passion que des fans underground, entre guillemets, à l'ancienne, ça, je sais pas. Mais est-ce qu'on a vraiment envie, est-ce que c'est vraiment souhaitable? J'en suis pas sûr et certain. Je pense que ce qui est bien, c'est que les gens soient de plus en plus ouvert à des sonorités qui auraient été considérées comme confidentielles ou en tout cas trop compliquées, trop exigeantes.
Et tu penses que c'est le cas aujourd'hui?
J'ai un peu l'impression.
Moi, j'ai un senti commun. Donc
Je pense que la jersey, même si c'est un truc qui est un peu abusé, qui est un peu surutilisé, d'ailleurs, je crois que c'est un peu mort et que je parle un peu d'un truc ringard là maintenant. Mais
Kershak est passé à autre chose déjà.
Mais c'est quand même intéressant de voir que le public rap a pu écouter des trucs aussi rapides qui viennent quand même de la dance music, d'une forme de dance music quand même très underground et tout. Donc c'est plutôt satisfaisant de se dire que ça a percé par cette voie-là. Ensuite, je crois quand même que la partie du public qui écoute de manière très curieuse et qui va se sortir de sa zone de confort, elle sera de toute façon toujours un peu réduite parce que elle était déjà réduite avant et je suis pas certain qu'il y ait forcément un besoin pour ces musiques d'être écoutées massivement. Ensuite, pour te répondre, c'est plus que savoir si les gens écoutent plus de blockbusters ou moins de blockbusters, je pense qu'ils en écoutent de manière complètement différente. Il y a c'est toutes ces histoires de découvrir les morceaux sur TikTok qui est vraiment une nouvelle. Moi, je t'en parlais en antenne, mais j'étais chez ma dentiste récemment. Elle n'est pas une dentiste, donc elle a pas non plus 18 ans. Elle a la trentaine. Elle écoutait des morceaux et il y avait The Weeknd, etc. Elle me dit, je découvre ça sur TikTok. Là, j'ai fait une playlist. C'est que des trucs que je découvre sur TikTok. Donc je me dis, elle attend même pas une playlist Spotify, quoi. Elle est sur TikTok et tout.
C'est-à-dire qu'elle va pas sur un Music Journal.
Elle va pas sur un Music Journal.
Peut-être que si, en parallèle.
Je pense pas. Je pense pas.
Et après, il y a les séries qui sont une énorme source de Euphoria, où il y a parfois 50 morceaux dans l'épisode, qui sont d'ailleurs parfois, moi je trouve, assez... Alors après, c'est aussi que je pense qu'ils n'ont pas les droits pour prendre le bon morceau qu'ils voulaient, et donc ils prennent
c'est
une sorte
covers,
de sous-truc par un rappeur un peu inconnu et tout. Enfin, pas inconnu, mais bon, bref. C'est parfois pas les premiers choix, mais en tout cas, ça permet de découvrir des choses assez, qui n'aurait pas été directement, spontanément découverte par ce jeune auditeur un peu abstrait dont on parle. Il y a un exemple hyper drôle dont j'ai entendu parler récemment, c'est qu'il y a ce groupe qui s'appelle Slowdive, qui est un groupe des années 90, de shoegaze, pour ceux qui connaissent, donc du rock lent, assez mélancolique.
Ils reviennent, ça,
avec
pas
mal d'effets. Ils avaient déjà sorti plusieurs albums, ils s'étaient reformés depuis un moment et tout. Et en fait, il y a eu une trend TikTok sur eux. Et donc, le groupe commence à avoir, a eu une sorte de, alors que c'est des mecs qui ont 55 ans maintenant, donc ils ont eu une sorte de jeune public qui s'est intéressé à eux. Leur nombre de fans a augmenté comme pas possible sur Spotify et leur concert à la Cigale a été de manière complètement imprévisible, sold out en deux temps, trois mouvements. Incroyable. Et j'en parle parce que, en tant que journaliste, j'ai demandé des places et on m'a dit non, il n'y a pas moyen, tout est sold out, il n'y a plus zéro. Et dans un genre assez similaire, il y a un groupe, là c'est une anecdote, c'est un exemple encore plus extrême je trouve, il y a ce groupe qui s'appelle Duster, qui est aussi un peu un groupe shoegaze américain, donc c'est encore un peu différent et tout. Et là c'est un groupe qui en fait dans les années 90 était totalement inconnu, qui en fait a sorti des choses locales aux États-Unis, mais personne ne les connaissait. Moi qui suis un peu connaisseur, enfin qui pouvait me prétendre un peu connaisseur en shoegaze, j'avais jamais entendu parler d'eux. Ils ont été réédités par ce label qui s'appelle Numéro Group, qui fait énormément de rééditions un peu dans tous les genres, soul, funk, mais aussi rock. Ils ont été réédités, bon, ils ont en gros retrouvé toutes leurs démos, ils ont réédité les choses, bon, ça a plutôt bien marché et tout, mais ça restait un groupe quand même très donc que personne ne connaissait en 2018, que les fans Kadra, Quinca de shoegaze ont commencé à découvrir et à aimer en 2020-21, et là, pareil, trend TikTok. Et donc ce groupe Duster, dont les membres ne savaient même plus limite qu'ils avaient fait un groupe, se retrouve avec 1 million de fans sur Spotify.
Ce qui est génial avec ces anecdotes.
Mais c'est lié à quoi, du coup?
Lié à une trend TikTok. En gros, c'était une sad trend, je crois, un truc comme ça. Moi, je suis pas sur TikTok, je connais pas hyper bien les détails.
Moi en plus,
mais en gros, leur morceau a été utilisé pour un.
D'accord.
Mais
c'était même pas lié à une série ou un truc, c'est vraiment.
Parce qu'en fait, ça s'est retrouvé de manière.
L'un des principes de TikTok, c'est que donc tu peux mettre une chanson en bande sonore, et en fait, tu peux ensuite, faire de la recherche à partir du morceau, voir toutes les vidéos qui utilisent ce même morceau. Et en fait, ça crée souvent des mouvements autour de la vidéo, de dire on va utiliser toujours cette même musique, et il y a un trend comme ça qui paraît.
C'est
comme un jingle, quoi.
C'est un rêve de mec de maison de disque, ça.
Mais alors, ce qui est génial, c'est que ça met un peu de nuance dans notre truc, c'est que. ces canaux énormes, effectivement, tu vois, de trucs de maison de disques, etc., ils peuvent mettre en valeur des trucs qui, normalement, ne devraient pas se retrouver dans ces canaux.
Mais ils ont
c'est
pas,
là où c'est intéressant.
En fait, ils ne le choisissent pas. Et puis, il y a aussi ce truc dont on avait parlé, je crois qu'il y avait eu plusieurs articles là-dessus il y a un an ou deux, c'est qu'en fait, TikTok met en avant parfois des morceaux de gens un peu connus, mais qui, par exemple, n'étaient pas sortis en single. C'était le cas de Doja Cat, je crois, qui avait fait, il y avait un de ses morceaux, genre un album track qui était passé un peu inaperçu, qui avait été choisi par une TikTokeuse qui avait fait un dance challenge, je ne sais plus lequel, pardon, je suis pas très précis. Et en gros, le truc a explosé. Donc Doja Cat a sorti le truc en single, l'a clippé, a fait apparaître la TikTokeuse dans son clip, etc. Et de la même manière, il y a des morceaux qui ont 5 ans, 10 ans, 15 ans, qui ressortent comme ça, sans que personne n'ait rien fait, en fait, quoi.
Mais donc, ça signifie quand même qu'il y a eu au moins à l'origine une personne qui connaissait ce morceau, ouais, qui l'a utilisé comme bande-son.
Oui.
Quelqu'un, alors la vidéo a dû bien marcher, enfin, tu vois, le short sur TikTok, quelqu'un a dit, oh, ça c'est cool, je vais l'utiliser. Et puis en fait, ça fait boule de neige,
c'est,
quoi.
Ouais. C'est ça qui est assez génial. Ben, moi, je penserais toujours à ce mec de l'Oklahoma là qui fait du skate avec du Fleetwood Mac, quoi.
Ah oui, 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 bien sûr.
Bien sûr.
Où le morceau, d'un seul coup, t'as des petits de 12 ans qui disent « Tu connais Fleetwood Mac ?» Ouais, bah quand même, merci, ouais, on connaît un petit peu, tu vois. Et en fait, c'est parce que ce gars-là, Ghostface ou Ghost Dog ou je sais pas quoi, là, Dog Gangster, je sais pas comment il s'appelait, là,
ouais,
lui qui fait le morceau, il a décidé d'utiliser ce track-là spécifiquement pour se mettre en scène.
Sachant qu'aux États-Unis, à ma connaissance, ça fait partie vraiment du. C'est dans la culture américaine. C'est pas comme aux États-Unis, c'est un essentiel.
Ouais,
quoi.
Ouais. C'est comme non, mais c'est Cabrel, quoi. Tu
ouais,
vois,
ouais, mais ce qui veut dire que voilà, c'est. Demain, t'as un petit en France ou même pas.
Ça, c'est improbable, par contre.
Un mec de 50 ans qui va se filmer avec du Maxime Le Forestier, période février de cette année-là. Tu vois pas le Maxime Le Forestier un peu sympa, tu vois, le Maxime Le Forestier un peu hippie, et que le truc, il explose, tu vois. Tu te dis, putain, en fait, la puissance de ces trucs-là, c'est incroyable. Parce que là, c'est bien beau de parler, tu sais, des plateformes, des algos, etc. Mais en fait, les gens qui tombent sur Spotify, parfois, justement, sont enfermés.
Bien sûr.
Avec l'algorithme dans un certain train musical. Mmh. Alors même si t'écoutes les nouveautés, tu vas écouter que des nouveautés qui auront toujours à peu près le même style. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que il y a beaucoup de gens qui te disent, moi j'en vois régulièrement, qui me disent, bah je sais pas comment trouver d'autres trucs.
Mmh.
T'as accès à
tout. Musique Journal.
Ben ouais, t'as accès à tout, mais du coup, tu sais pas comment aller chercher toi-même. T'as besoin de curation, t'as besoin de trucs comme ça. Et là, me dire qu'il suffit qu'il y ait un mec en skate au fin fond de l'Oklahoma qui décide d'utiliser un morceau des années 70 et que d'un seul coup, ça ouvre une porte pour plein de gens.
Mmh.
Parce qu'on parle des petits, mais on parle aussi des gens de notre génération à nous, tu vois, qui sont pas forcément méga vieux, mais qui sont plus très jeunes non plus, tu vois.
Mmh.
Et qu'en fait, ça permet aussi à ces gens de se dire, ah putain, mais oui, c'est vrai. Ah, ce morceau-là, j'avais jamais fait attention.
Après, la question, c'est de savoir si les gens qui découvrent, si les jeunes qui découvrent Fleetwood Mac ou Kate Bush via Stranger Things vont aller écouter les albums en entier, se demander, l'époque, c'était quoi et tout.
On avait fait un épisode de DLT sur TikTok, je vous invite à aller l'écouter,
d'accord.
Visiteur, le spectateur.
Avec Bovary.
Et avec Bovary, absolument. Mmh. Et on avait pris, j'étais tombé sur des stats qui indiquaient que globalement, tout ne se transvase pas, évidemment, t'as pas les auditeurs TikTok qui vont tous se retrouver, mais que tu voyais quand même une augmentation des écoutes dès qu'il y avait un trend sur les autres plateformes.
T'imagines, le truc, d'un seul coup, t'es streamé 100 millions de fois, mais sur les 100 millions, c'est sûr que tu vas pas avoir que des fans absolus qui vont se taper toute ta discographie, mais si tu retiens 1% de ces gens-là, bah c'est bon, t'es refait, tu vois.
On se fait une petite pause musicale parce qu'on a parlé de Slow Dive. Et d'ailleurs, c'est François qui monte cette émission qui m'avait parlé de Slow Dive récemment. C'est un morceau récent, ça date du 20 juin, ça s'appelle Kisses. Allez. Ça m'amène aussi quand même à dire un truc, c'est que évidemment, il faut les lieux pour que les gens puissent découvrir de la musique, mais il y a aussi une responsabilité des plateformes de streaming qui, parfois, nous plongent aussi dans une forme de léthargie à travers un flux qui s'enchaîne automatiquement. Évidemment, pour ne pas se planter, il va partir de ce que tu as déjà écouté et ça va t'enfermer dans une bulle, bien sûr. Bah mais il y a une volonté aussi de te maintenir sur cette plateforme, parce qu'il faut que tu restes longtemps quand même, tu vois, le plus possible sur cette plateforme. Et donc, il y a aussi une responsabilité que parfois on peut critiquer de temps en temps, je pense.
Non, parce qu'il y a aussi, je pense que la plateforme, elle répond en fait à ce que le public demande. Et il se trouve qu'effectivement...
Qu'elle ne crée pas les usages parfois aussi.
Ben, en fait, non, mais il faut garder en tête qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent de la musique pour écouter un style de musique. Tout le monde n'est pas à fond dans l'éclectisme et passe du coq à l'âne, en fait. Il y a des gens qui, tu vois, qui se mettent dans un mood. C'est pour ça que les playlists qui marchent le mieux, c'est les playlists un peu thématisées, tu vois. Mm-hmm. Et tu te mets dans un mood et en fait, bah, la plateforme a dit, OK, vous voulez de la musique dans un mood particulier, bah, prenez ça, tu vois.
Mais c'est la politique de Spotify. Moi, j'étais allé interviewer les gens, notamment le curateur de Rap Caviar, etc., à New York il y a quelques années. Effectivement, ils ne le disent pas aussi explicitement, mais c'est le mood qui vendent. Ça, c'est une... Et ils savent effectivement que une grande partie de leurs auditeurs, enfin, tu sais, les playlists acoustiques guitare pour travailler, ça fait partie des trucs qui marchent le mieux. Les trucs instrumentaux, il y avait cette fameuse histoire des faux morceaux ambiantes faits par des mercenaires de l'ambiante à la solde de Spotify qui faisaient des millions d'écoutes et en fait, c'était Spotify qui était rémunéré. Enfin, bref, mais c'est effectivement de toute façon.
Incroyable, hein.
Une majeure partie des gens, et je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est oui, on a une chance de pouvoir avoir peut-être un peu plus de gens qui seraient sensibles à un peu plus de diversité, et effectivement, on n'est plus dans un modèle années 80-90 où il y a des gens qui écoutent du rock, U2, les Strokes, et d'autres gens qui écoutent Psychiatre de la Rime et Booba, c'est sûr que ça s'élargit.
Ça, le constates, t'es sûr, ça a volé en éclats, ces chapelles.
Les mecs qui écoutent Booba et U2 quand même.
En vrai, je suis sûr qu'il y en a plein.
Maintenant, il y en a. Enfin, il y en a. Ils écoutent deux morceaux de U2, un morceau de Booba.
Ouais.
Mais c'est. Enfin, je sais pas, moi, un de mes meilleurs amis, il écoute par exemple vraiment des trucs pop-rock français. Je dis ça, il va mal le prendre, mais vraiment des trucs de naze, tu vois, genre avec des refrains, tu sais, des musiques de pub avec des ukulélés, des petits sifflets au début et tout. Il trouve ça super, tu vois.
Ça pourrait être la BO d'Apple, quoi.
Ce groupe qui s'appelle Granville, je sais pas si tu vois, qui est vraiment un groupe qui a eu un petit tube il y a genre 10-15 ans. Bon, bah, tu vois, ça fait partie des trucs qu'il adore. Et en même temps, il écoute Naps et il écoute, c'est un mec du 91, donc il écoute du rap du 91, tu vois ce que je veux dire. C'est un peu de la, voilà. Il est assez, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens. Ouais, il y a beaucoup de gens qui en fait n'ont pas, enfin, écoutent des morceaux et surtout écoutent de la musique en faisant un peu autre chose. Donc ils n'ont pas envie d'être. Moi, je peux constater dans l'open space où je travaille quand je mets de la musique. Alors je mets des trucs consensuels, genre je mets souvent du reggae. Ça passe. Les gens sont pas ils le prennent pas trop mal. Le dub, ça va aussi, tu vois, c'est instrumental et tout. Mais si tu passes des trucs genre avec des synthés un peu aigus et surtout avec des sons qui sont pas les sons compressés actuels, les gens, ils sont là genre, il y a un problème avec ton ordinateur là, Étienne, c'est bizarre.
Ça les dérange.
Ouais, ça peut déranger. Donc il y a vraiment aussi, enfin, en fait, c'est ça là, je pense aussi un peu la cœur de la problématique des playlists Spotify, c'est que il y a une uniformisation non pas des genres mais du son aussi. Et les morceaux, quand on parle de Spotify Core, etc., des voix murmurées à la Billie Eilish et tout, c'est aussi que c'est des choses qui sont vachement faciles à écouter. Enfin, c'est la musique designée doit être écoutée au casque.
La question, c'est est-ce que les artistes vont se conformer à certains trucs pour être featurés dans des playlists thématiques ? Tu vois, de la même manière que tu vas quelque part pour pouvoir prendre la photo et la mettre sur Instagram.
Ouais.
Tu sais, parce que tant que c'est un classement de ce qui existe déjà, qui est proposé et thématisé, ok, pourquoi pas. À partir du moment où carrément les producteurs se mettent à faire du truc répondre à ce...
Ça va forcément de pair. Enfin, tu vois,
je sais pas, est-ce qu'il y a des artistes qui frontalement te disent, alors moi, ma musique, tu vois, comme Drake par exemple, 100% moi je fais de la musique pour centre commercial. Tu vois, est-ce que vraiment les gens ils ont cette...
Je sais pas ce que t'en penses, Étienne. Je pense qu'il y a assez peu d'artistes qui vont dire, moi je fais que que de la musique purement commerciale, mais par contre de dire au sein d'un album, je vais toujours penser à avoir un ou deux tubes, un truc.
Oui, ça c'est la classique.
Voit, non, mais on voit quand même dans le rap français, par exemple, les grosses signatures de rap français, on voit que leurs albums sont quand même faits un peu, sont construits de manière à ce qu'il y ait des tubes Zumba, bon, même si maintenant c'est un peu moins présent des tubes Zumba, des morceaux entre guillemets vrai rap, des morceaux piano,
piano violon,
et aussi des choses un petit peu pop. Enfin, quand t'écoutes les derniers disques d'Amso ou Hamza, tu sais qu'il y a des trucs qui sont entre guillemets avec une sensibilité électropop qui va pouvoir peut-être happer des gens qui écoutent pas de rap au départ, même si aujourd'hui il y en a plus beaucoup des gens qui écoutent pas de rap, mais en tout cas qui va pouvoir se dire ah ouais, en fait c'est le rap, j'aime un peu plus que ce que je pensais, quoi. Mais bon, j'ai pas de méthode scientifique pour te prouver ce que je te dis.
À ton avis, est-ce que si on fait fi de tous les aspects sociaux, d'éducation, etc., un jeune aujourd'hui de 18 piges, ou même plus jeune encore, disons de 15 ans même, est-ce qu'il a une époque où, à ton avis, il peut potentiellement avoir accès à plus d'esthétique, à des diversités sonores plus importantes qu'il y a 20 ans ou 30 ans en arrière ?
Oui, oui, ça c'est sûr. C'est s'il a envie de passer du temps à ce, oui, ça c'est évident que ça se passe un peu autrement. C'est des hiérarchies différentes. Je vois, moi, je lis pas mal. Et d'ailleurs, Guillaume connaît très très bien ce sujet parce qu'il l'a étudié de près au niveau universitaire. Mais c'est les commentaires SoundCloud. Enfin, souvent t'as des mix pour des radios, des web radios, ou parfois juste des mecs qui postent des mix comme ça où il y a des morceaux, enfin des sélections très 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 variées, et tu te rends compte que des gens qui viennent pour, mettons, du cloud rap vont se mettre à aimer un morceau, genre une musique de film finlandaise un peu chelou des années 90, tu vois ce que je veux dire. Et je pense que c'est plus facile. En gros, la surface de sensibilité est beaucoup plus large qu'avant, ça c'est sûr. Ensuite, est-ce que ils vont avoir le temps de... En fait, comme tout est accessible, ça rend le cheminement différent. C'est-à-dire qu'il y a un truc, je vais pas faire mon Bret Easton Ellis, il en parlait comme ça vachement dans son espèce de recueil de chroniques là, qui s'appelait White, où il disait en fait le fait d'attendre qu'un disque sorte ou qu'un film sorte, ça lui donnait forcément une aura différente. Tu t'étais vraiment excité, tu disais putain, ça sort dans 2 semaines et demie, je compte les jours, etc. Et il y a que ce disque que j'attends, tu vois, il y a le nouveau Steely Dan qui va sortir, c'est que ça qui compte pour moi. Là aujourd'hui, en fait, le fait d'avoir tout accessible, c'est sûr que ça aplatit un peu les choses et les gens se disent moins, même s'il y a un effet un peu, les grosses sorties rap, évidemment les fans attendent.
Oui, mais il y a aussi le rythme de production.
Et il y a le rythme de production qui est devenu, voilà.
Les artistes, ils sortent tous des trucs tous les 6 mois, c'est clair. Minimum, tu vois.
Mais ça qui, pareil, est complètement poussé par les plateformes.
Ouais, bien sûr.
Ça s'est pas un peu calmé, cette histoire de gros rythme?
Peut-être, mais je sais que Daniel Elk, c'est ça, le fondateur de Spotify, disait encore il y a 3 ans maximum, face à plein d'artistes qui grondent, ils disaient, ah, putain, on n'arrive pas à en vivre, ils disaient, bah, les gars, faut vous adapter. Clairement, ils disaient, vous pouvez plus vous permettre de rester 3 ans sans sortir de morceaux. Ça doit être du flux régulier. Il le dit.
Voilà. Bah ouais. Mais c'est exactement ce qui se passe sur YouTube, tu vois. Qui de la même manière va plus récompenser les créateurs de contenu qui bastonnent des vidéos régulièrement plutôt que des gens qui vont taffer pendant un mois et demi sur leur format avant de le sortir. En fait, on est dans cette logique-là, en fait, d'être tout le temps présent, quitte à ce que ça sature le marché. Ouais. C'est un petit peu compliqué. Hein.
J'ai
juste une question. Vas-y. C'est est-ce que vous croyez pas aussi que on a tendance à surdétailler les styles musicaux, c'est-à-dire que là, on parle, tu sais, sur le rap, on parle de cloud.
Ah, tu veux dire les appellations,
ouais, jersey, drill, plug, machin. Hey, moi, à mon époque, on appelait ça du rap et on se posait pas la question. En fait, tu faisais pas autant de. Tu vois, si on revenait au rap new-yorkais des années 90, donc le Wu-Tang, Nas, etc., je pense que pour chacun des artistes, on trouverait un mot différent. Tu sais, Mobb Deep, il ferait pas le même rap que le Wu-Tang, qui ferait pas le même rap que 50 Cent,
qui
ferait pas le même rap que Cameron.
Parce que c'est lié à la profusion d'esthétique, à la fois le flux, la production qui est plus importante, mais aussi sa diversité.
En fait, on va trop loin là.
Ouais, mais face à cette diversité, est-ce qu'il n'y a pas besoin justement de trouver des mots pour en parler derrière? Qu'est-ce que t'en penses, Étienne? Ou est-ce que ces étiquettes, elles ont des limites? On le sait, c'est la base. Les étiquettes ont des limites.
Après, moi j'aime bien les étiquettes. Pour le coup, je suis un peu pro-étiquette et je trouve ça sympa qu'on trouve des nouveaux noms de genre. Ça permet de faire des blagues, ça permet d'avoir quand même 2-3 repères, etc. Mmh. Ensuite, je suis d'accord avec toi.
En fait, en partant du principe que les artistes qui le font en ont conscience.
Ouais.
tu vois. Et en fait, je pense qu'au départ, c'était pas le cas. Le mec qui faisait un dérivé de la trappe, il savait pas qu'il faisait forcément de la drill ou de la jersey, ou tu vois, c'est oui, le mec qui fait un son, il a sa sensibilité. Et le fait de poser une étiquette dessus fait que d'un seul coup, les gens, plutôt que de prendre le mouvement dans son ensemble, ils vont se focaliser sur cette proposition artistique-là et se dire, on va la décliner, tu vois. Mmh. Et je trouve que tu vas perdre forcément en route.
Après, ouais, ça vient souvent quand même, je sais pas si c'est valable pour tout, mais souvent, tu sais, l'étiquette, le terme qu'on va donner à une scène, en fait, en général, t'as une scène qui émerge un peu d'elle-même, entre guillemets, d'un tissu social, d'un historique, qui a eu des prédécesseurs, machin, etc., puis qui donne naissance à un truc un peu plus spécifique, mais qui sort pas de nulle part, évidemment, hein, ouais. qui est dans une filiation. Et c'est souvent, en fait, les gens avec un regard extérieur, notamment les médias, qui vont, en l'observant, donner un terme qui va être réapproprié derrière et qui va commencer à déterminer la scène.
Je suis pas sûr, parce que
ça arrive souvent. Je sais pas si c'est la norme.
La drill, par exemple, non. Tu vois, la drill, c'est vraiment, ça a été vraiment une sorte de greffe. Tu vois, genre, bon, ok, il y a une nouvelle forme, alors dont l'histoire est compliquée, etc. Mais alors, en France, c'est tel preset, telle manière de produire le truc, et un peu telle manière de rapper aussi. Et hop, tout le monde s'y met vraiment un peu comme, bah, vraiment comme une mode vestimentaire, quasiment. Tu vois ce que je veux dire?
Ce qui est marrant, c'est que
ça donne que des mauvais résultats, mais il y avait vraiment un truc où c'était revendiqué par les artistes eux-mêmes
Ce qui est marrant, en fait, c'est que du coup, quand t'es mis face à un sous-genre et que toi t'es là, tu fais c'est pas ouf, hein. On va dire ouais, mais tu comprends pas l'esthétique, tu vois. C'est genre comme si ça servait aussi de caution, en mode bah écoute, si t'aimes pas ça, c'est pas que c'est de la mauvaise musique, c'est pas que c'est du mauvais rap, c'est que t'as pas encore les codes pour comprendre vraiment la plug, tu comprends. Si, je les ai, en fait, c'est éclaté ton truc, on peut le dire ou pas, tu vois.
Et après, c'est toujours difficile.
En fait, ça transforme chaque genre, ça crée en fait une foule de micro-puristes. Tu vois, qui sont vraiment arc-boutés sur un truc qui n'est qu'une variante d'un truc qui existe, en fait, tu vois. Et moi, je pars du principe que tu peux pas écrire un bouquin avec juste trois phrases d'intro, tu vois. Ça fait pas un livre, en fait. Ça fait juste trois phrases d'une intro.
Mais ça, tu pourras le reprocher à des artistes, mais pas à un courant. En fait, souvent, au sein d'un courant, en fait, t'as plusieurs approches.
Le courant, par exemple, la plug. Le courant, c'est quoi? Sans déconner, c'est quoi la plug?
Moi, je maîtrise mal la plug. Je sais pas si Étienne, toi, cette.
Je maîtrise pas super bien non plus.
Moi, je vais vous dire ce que c'est.
Moi, je sample, c'est ça.
De mon point de vue.
La sample drill, c'est encore autre chose.
Moi, je le mêle au. C'est quoi? C'est le DMV, c'est ça? C'est le côté un peu mumble rap, etc.
C'est un peu éthéré, la plug.
Il y a de la reverb. C'est limite de la ASMR au niveau de la façon dont c'est déclamé, tu vois. Mais en vrai, ça reste une esthétique dérivée de la trappe, en fait, tu vois, avec les mêmes charlets, les mêmes trucs.
Non, mais ensuite, après, le truc, c'est que le marché du rap est tellement énorme que, entre guillemets, on peut pas non plus leur reprocher de vouloir créer des niches pour vendre.
Ouais, mais tu vois,
c'est juste qu'après, ça trouble l'esprit des gens et il y a ce truc genre, ah, est-ce que c'est vraiment de la drill que j'écoute ou est-ce que c'est vraiment de la
plug? Parce qu'en fait, du coup, la plug, avant, on appelait ça du mumble rap et tout le monde était plus ou moins d'accord pour dire que c'était les mecs de SoundCloud, tu vois, à l'époque. À l'époque, tu vois, on a l'impression qu'on parle de il y a 15 ans, alors que c'est il y a 3 ans et demi, tu vois. Mais et en fait, c'est ouf parce que t'as l'impression que du coup, plus aucune musique n'est critiquable parce que tu comprends, c'est une esthétique. Et moi,
d'accord,
ça me dérange
un petit peu. Qu'est-ce que t'en penses, Étienne, de tout ça?
Alors, moi, je pense que t'as raison de dire ça, et c'est effectivement une manière qui est un peu crispante d'éduquer les gens, ou en tout cas de les former à l'écoute de la musique. Ensuite, je crois, moi, de mon expérience personnelle, en tout cas, je crois que au-delà des genres, les auditeurs ont quand même un besoin un peu intime et presque passionnel de tomber amoureux de tel ou tel morceau et donc d'oublier en fait le genre d'où ça vient et ils sont pas forcément dans un truc où ils vont accumuler 50 morceaux du tu vois, tu peux écouter un morceau d'un artiste et pas avoir envie d'écouter le reste de sa discographie. Et je me dis que effectivement c'est disons pour les émetteurs, c'est pas une super politique de fractionner autant le marché. Ensuite, je pense que il y a une partie des auditeurs une grosse partie des auditeurs qui peuvent quand même s'émanciper de ça, tu vois ce que je veux dire. Je crois que la bonne musique, c'est un peu l'argument de la bonne musique contre la mauvaise musique, mais c'est vrai que un super morceau de drill, t'es pas là à te dire ah vraiment les coordonnées de la drill sont réunis. Tous les paramètres sont bien là. J'ai tout ce qu'il faut. C'est que ça coche toutes les cases et j'adore. Ce que t'entends avant tout, c'est un super morceau. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, mais je pense qu'il y a quand même des gens qui, du coup, sont vraiment dans ce côté. Est-ce que ça répond? Ouais,
mais après, c'est que la consommation de musique et en particulier de rap, c'est aussi aligné sur la consommation d'autres formes d'expression artistique. Alors, j'y connais rien en jeu vidéo, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi un peu ce truc de catégorisation qui peut influencer les gens. Il y a aussi un peu l'aspect les gens qui consomment du rap comme on consomme du sport, la NBA ou le foot, etc., où il y a quelque chose de très très spécialisé et tout, et donc ils ont un besoin comme ça d'identifier des mini couloirs, des mini, puis dire je mate que, enfin j'en sais rien, j'y connais rien en foot, mais dire je mate que le championnat anglais parce que c'est là qu'ils jouent comme ça, tu vois, enfin j'en sais rien.
Et puis ne sous-estimons pas ce désir de faire communauté,
bien sûr, aussi
notamment quand c'est des trucs qui parlent aux jeunes, et bien c'est aussi une revendication identitaire, etc., et qui va t'exclure parfois, mais aussi parce que eux, à l'inverse, ils affirment quelque chose, tu vois, en disant tu le comprends pas, mais c'est normal parce que nous on a un truc affirmé.
On parlait tout à l'heure de la hyper pop, et la hyper pop, c'est effectivement comme ça que ça fonctionne, y compris en France où il y a une scène hyper pop française qui est, alors qu'ils se revendiquent pas, ils mettent pas hyper pop sur leur flyer, etc., mais c'est clairement un truc de communauté avec des gens qui ont des points communs.
On a quoi comme artiste, par exemple,
hyper pop en France?
Éloi sur
oui,
les causes.
Il y a Violette Indigo qui peut s'inscrire un peu là-dedans.
Il y a en tout cas une scène qui est effectivement assez underground, mais qui réunit. Enfin, il y a des soirées.
Il y en a plein, mais je les connais pas.
Ouais, ouais, il y en a beaucoup.
Mais oui, après, parce que toi, pour toi, l'hyper pop à l'origine, c'est quoi? C'est la scène PC Music, oui. Avec derrière Sophie et compagnie, etc.
Exactement.
Aussi, ouais.
Ouais. Après, c'est aussi un peu lié. Alors là, on va se lancer dans des trucs encore plus techniques, mais à l'espèce de scène qu'on a appelée, enfin, qui n'en est pas vraiment une, puisqu'elle déconstruit la Deconstructed Club, okay. Et disons la post-internet musique, comme on a pu appeler ça. Il y avait plusieurs articles qui ont été écrits là-dessus, à la fois dans Audimat et dans Musique Journal, où c'est une musique dont le principe même est de déconstruire les esthétiques et de déconstruire l'esthétique club, de la house, de la techno, pour en faire des morceaux qui en fait deviennent dysfonctionnels. Mais donc en fait, si tu veux faire dysfonctionner une musique et néanmoins la vendre sur un marché, faut du coup la refonctionnaliser comme des... Bon, ça devient un peu compliqué.
Ce qui est génial d'ailleurs avec cette scène hyper pop, on invite d'ailleurs tous ceux qui nous écoutent à se pencher sur cette scène multiple. C'est vrai qu'elle c'est compliqué maintenant ce qu'on qualifie d'hyper pop, mais à l'origine, justement parce que ça répond un peu à ce dont on parlait tout à l'heure sur les musiques populaires, la pop musique, etc. Et bien, il y a un rapport extrêmement moderne de trucs décomplexés vis-à-vis justement du format pop, vis-à-vis du mainstream, et ne pas le considérer antagoniste de l'expérimentation, etc.
Plus du tout. C'est vraiment un truc. Alors là, je vous dis, je suis pas spécialiste et je connais des gens qui s'y connaissent beaucoup mieux que moi, notamment Julia Kerman, qui a écrit à la fois dans Musique Journal et dans Audimat, et qui prépare un livre sur la hyper pop. Mais en fait, ce qu'elle essaye d'avancer, c'est qu'il y a une forme. C'est plus de l'ironie, c'est plus de la sincérité, c'est une sorte d'état qu'on découvre en fait en train de le consommer, où c'est à la fois de la consommation de musique hyper commerciale, de l'eurodance, de la plus grosse, même tu vois des morceaux rap dance de Florida, Kisha et compagnie, tu vois, qui deviennent en fait des, où en fait on se dit bah ok, c'est, il y a plein de red flags, entre guillemets, mais en fait, je trouve ça super. Et en fait, pour moi, c'est ça qui est hyper beau dans la pop.
C'est parodique, en fait.
C'est que c'est quelque chose, en fait. Ouais, tu peux, en fait, la passion, enfin, ce qui te prend, en fait, tu peux pas vraiment le contrôler dans la pop. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quelque chose de tellement, c'est un dialogue tellement immédiat avec le cœur, avec le corps, etc., qui, je répète, je trouve, existe moins dans d'autres formes artistiques où il y a quand même un peu plus de filtres, notamment dans le cinéma, etc., où il y a quand même tout un truc genre, non, là, le montage, c'est pas possible, etc. Et puis, c'est plus long. Alors que la pop, c'est vraiment, c'est en 3 minutes, c'est réglé, voire 1 minute 30. Mais je pense qu'il y a aussi ce truc de se dire, en fait, en France, on a longtemps eu ce truc genre, bon, moi, mon plaisir coupable, c'est d'écouter Mylène Farmer, machin. Mais en fait, l'idée de plaisir coupable, elle est naze. Tu vois, c'est un truc qui, en gros, fait la limite entre. Bon, alors on écoute Neil Young, Bruce Springsteen et puis Serge Gainsbourg.
Mais pas David Charvet.
Et voilà, et à côté de ça, quand on veut un peu faire les cons, on va écouter Britney Spears.
Le problème, c'est comme ça que tu commences, après tu finis par écouter Les Lacs du Connemara, premier degré. En soirée étudiante, école de commerce, tu vois. C'est ça le. Où est la limite? Je pose la question. Où est la limite?
supportable.
Ce qu'on peut faire, c'est basculer justement sur cette deuxième partie. Parce que donc là, quand même, c'est jamais arrêté et tout, mais on constate, en tout cas, on est à peu près d'accord. Moi, je pense pareil. Daz, je sais pas toi ce que t'en penses, mais que globalement, on a une certaine chance aujourd'hui quand même de pouvoir accéder.
Non, mais bien sûr,
à des
bien sûr.
Non, mais c'est varié et qu'il y a un peu plus d'ouverture globalement.
Tous les jours, je suis là, je suis content d'être sur Discogs et sur Soulseek et de choper des morceaux, des nouveaux trucs et de me dire waouh, c'est tellement simple, c'était tellement galère avant, vois. Genre, ok, c'est super, c'est sûr que c'est globalement super.
Ah ouais, il faudrait être cinglé pour se plaindre de ça maintenant, quoi.
Voilà, bien sûr. Et d'ailleurs, un truc qu'on n'a pas dit, mais qui forcément explique aussi ce phénomène, c'est qu'en fait, le nombre d'heures écoutées de musique par jour augmente très très régulièrement et de manière assez importante ces dernières années. C'est-à-dire que les gens passent beaucoup plus de temps à écouter de la musique qu'auparavant. Oui, pas forcément de l'écoute
mais
active.
Mais en faisant autre chose, voilà.
Oui, effectivement. Mais quand on regarde, je ne sais plus quel organisme de l'État fait un point sur les pratiques culturelles régulièrement des Français, et c'est un truc marquant sur les dernières décennies. On voit une évolution des années 50 à aujourd'hui complètement folle sur le temps qu'on dédie à juste écouter de la musique.
Parce qu'on a aussi des vies qui nous permettent de le faire. Ouais. On est en open space avec des casques sur les oreilles. Quand tu travailles, t'as de la musique, tu fais chier personne, tu vois. Donc c'est aussi lié à ce genre d'usage.
T'écoutes aussi beaucoup de musique de manière incidente, involontaire.
C'est vrai.
Dans les supermarchés, dans les commerces. Ouais. Et puis aussi en regardant des séries, mais en regardant des vidéos, les putains de pré-roll YouTube, c'est de la musique quand même, souvent. Alors je sais pas si c'est comptabilisé, mais en tout cas, t'en entends et ça s'intègre, tu l'absorbes quand même, tu vois.
Puis tous les appareils nomades, évidemment, ont changé tout aussi.
Moi, je veux dire que j'ai commencé à bosser en 2003 dans une boîte. Il n'y avait pas. Les machines n'étaient pas reliées à Internet.
Oui.
Donc, déjà, rien que ça. Enfin,
oui,
t'as une machine qui était reliée à ton réseau local d'entreprise, mais t'allais pas sur Internet écouter des trucs. T'avais pas les YouTube, etc., qui existaient. T'avais pas Spotify, t'avais pas Deezer.
Non.
Bah, en fait, les gens qui écoutaient de la musique, c'est qu'ils venaient avec leur musique, leur CD, leur mini-disque, leur lecteur MP3 à l'époque, et ils écoutaient leurs trucs en boucle à eux, tu vois. Le fait que là, maintenant, tu puisses lancer n'importe quel navigateur et te retrouver à écouter quelque chose de musical en trois clics, bah oui, forcément, ça va changer drastiquement la façon dont tu consommes aussi ce truc-là, quoi. Pour le meilleur et pour le pire, d'ailleurs. Moi, perso, je trouve que c'est cool aussi. Mais il y a des gens qui vont dire, bah non, la musique, c'était quand même un peu sacré. Il fallait se mettre en ambiance, tu vois, te poser, regarder le mur et écouter la musique, tu vois.
Regarder ta chaîne IFI.
Tu regardais l'IQ comme ça qui bougeait et tu bougeais pas, tu vois.
Passons à cette deuxième partie, parce que qui dit profusion plus importante, richesse plus importante, avec tout ce que ça comporte de trucs positifs et parfois négatifs, de complexité en tout cas, dit impact sur la société, dit regard porté sur ces musiques, approche différente de la musique. Et on le retrouve au sein d'Audimat, au sein de Musique Journal, c'est se poser des questions sur ces musiques justement, ce qu'elles nous font, ce qu'elles font à la société, etc. C'est aussi votre objet.
Bien sûr.
Justement, ces approches de la musique... Pourquoi, question basique pour commencer, pourquoi c'est si important de parler de musique? Pourquoi c'est si important au lieu du fait, c'est cool, tout le monde aime écouter un peu, enfin la plupart des gens aiment écouter de la musique, mais en parler et de la manière dont vous le faites notamment dans vos travaux, pourquoi c'est si important?
À titre personnel, moi en fait je me suis rendu compte, j'ai peut-être mis un peu de temps à me l'avouer, mais je me suis rendu compte que ma passion pour la musique était complètement connectée à ma passion, enfin à mes lectures de presse musicale. J'écoutais de la musique quand j'étais petit, mes sœurs m'en faisaient écouter, etc. Et il y avait des trucs que j'adorais, mais je connaissais pas encore la presse. Je voyais à la télé un peu le top 50 et tout, mais c'était quand même pas du tout le même traitement. Et quand j'ai découvert Rock et Folk, Les Un Rock, et puis en plus j'avais la chance d'habiter à côté d'un kiosque international, donc ils vendaient le New Musical Express, Melody Maker, enfin les hebdomadaires anglais qui sont vraiment des trucs d'acharnés en termes de suivi de l'actu et de passionnés, quoi. Donc en fait j'ai été complètement fasciné aussi par le fait que les gens, enfin que des gens en tout cas soient hyper accros à ça, quoi. Et puis je sais pas, il y a aussi un côté hyper cool dans la musique, tu vois, c'est tu te, que ce soit le rap ou que ce soit même des musiques beaucoup plus anonymes, désincarnées, la techno et la house, quand j'en entendais parler les premières fois, je me disais, putain, c'est fascinant ces musiques instrumentales qui sortent en vinyle avec des mecs qui ont 14 pseudos et tout. Enfin, je trouvais ça. Et le fait de trouver des informations là-dessus, c'était. C'est un peu comme un.
C'était énigmatique
voilà,
un peu.
C'est
le...
un peu comme un jeu de rôle où t'as de plus en plus de. Tu vois, où tu résous peu à peu les énigmes, etc. Mmh. Et d'ailleurs, tu les résous jamais parce que la musique continue d'être fascinante et que les informations ne suffisent pas et que voilà. Ensuite, là, il y a les informations. Ensuite, il y a la réflexion à proprement parler. Je sais pas comment. Comment dire, mais en fait, moi j'avais. Enfin, je pense que Guillaume est un peu dans le même cas que moi, mais en gros, on a eu des parcours universitaires. Enfin, moi, pas spécialement avancé, mais en gros, j'ai lu des trucs de philo. Il y a un auteur notamment qui s'appelle Théodore Adorno, qui est un auteur allemand qui a fui l'Allemagne nazie pour écrire, pour s'installer aux États-Unis, qui était donc un auteur, une sorte de dissident marxiste, et qui a écrit sur le jazz et les musiques légères. Et en fait, c'est un mec qui détestait ces musiques parce que c'est un gars qui était vraiment dans l'avant-garde, la musique de Schoenberg, etc., mais qui s'est passionné de manière un peu maso pour ces musiques légères. Et en fait, le fait qu'il mette autant de soin à détailler le fonctionnement de ces musiques en disant elles sont interchangeables, mais en même temps elles ont une pseudo-individualité, et en même temps elles sont vendues comme des fausses œuvres autonomes alors que c'est des marchandises. Enfin bref, ça m'a complètement surexcité en fait de trouver. En fait, je sais pas comment dire, mais cette pensée et le fait de me dire putain, on peut réfléchir à ça autrement. Ça m'a excité. Et ensuite, des auteurs comme Simon Reynolds ou comme certains auteurs français, moi je lisais les chroniques de Didier Lestrade dans Libération, qui parlait de house dans les années 90, je trouvais juste qu'en fait, écrire et réfléchir sur le fonctionnement de cette musique et pouvoir l'alimenter, enfin de ces musiques, et pouvoir les, bah, soit donner d'autres points de vue, soit les éclairer, soit les, disons, les mettre en perspective et effectivement dire c'est des marchandises, mais c'est justement leur statut est hyper ambivalent et c'est ce qui me passionne, c'est que c'est à la fois des choses qui sont un peu... Enfin, pas malfaisantes, mais en tout cas qui sont vraiment faites pour un peu pour t'envahir. Mmh. Et en même temps, t'as un rapport avec eux que tu réussis à rendre intime et personnel, alors que c'était pas forcément prévu, tu vois. Et c'est aussi comme ça que la musique est faite. Que des Noirs à New York et à Chicago et à Détroit écoutent Kraftwerk, c'était pas hyper prévisible, tu vois. Et bon, bah, ça s'est fait et ça a créé toute la musique qu'on écoute aujourd'hui. Donc, c'est ce genre de, à la fois d'histoire et de réflexion.
Et du carambolage aussi.
Ouais, de carambolage, des malentendus parfois aussi, tu vois, des détournements de machines. Enfin, l'histoire de la 303 qui a créé l'acid house, c'est une machine qui n'était pas du tout faite pour ça au départ. Enfin, je trouve qu'en fait, le fait d'écrire permet d'accompagner. En fait, sinon, la musique reste une En fait, d'une part, je trouve que la musique, et ça, c'est quelque chose que je trouve qu'on répète pas assez, mais une expérience vachement intime. Parfois, en fait, tu vois, je me dis, les gens vont à des concerts et sont là à s'émouvoir avec plein de gens sur des choses qui, au départ, les ont touchés de manière hyper personnelle. Donc, c'est bizarre, il y a presque un truc un peu impudique, genre on va partager
quelque chose. C'est obscène,
ouais. Ouais, c'est presque un peu obscène.
Ouais, je suis complètement d'accord avec
ça. Alors, après, quand c'est de la musique plus dansante et tout, là, ok, c'est cool, mais même le fait de danser, tu vois, si t'es vraiment dans un truc où t'as un élan de ouf déclenché par un morceau, t'exprimer physiquement comme ça, alors que tu le fais jamais au milieu de gens que tu connais pas, ça peut sembler un peu, tu vois, inapproprié.
Ça, c'est extrêmement culturel, parce qu'il y a d'autres pays où on va pas se poser ces questions.
Bien sûr, bien sûr. Bien sûr.
Non, la danse est beaucoup plus dans le quotidien, beaucoup plus naturelle, moins...
Oui, peut-être. Je sais pas trop... Il y a effectivement, en fait, je pense par exemple l'Amérique centrale, etc., où la salsa est complètement liée à des pratiques de danse et tout. Oui, effectivement. Ensuite, bon, après, oui, c'est vrai qu'on a un blocage judéo-chrétien.
Il y a un rapport au corps particulier, quand même.
Oui, il y a un rapport au corps particulier, c'est sûr.
T'es venu assez rapidement au fait que le monde universitaire aussi, mine de rien, a été fondateur dans ton approche et dans votre approche chez Audimat, chez Musique Journal. Parce que j'imagine ça permet de... En fait, c'est une approche liée aux sciences sociales, d'une certaine manière.
Aux sciences sociales, à la philo, ouais. Mais oui, oui, enfin aux sciences humaines.
Est-ce que justement, alors une question, j'ai une partie de la réponse, mais je veux que tu nous en parles. Est-ce que le monde universitaire s'intéresse à la musique? Est-ce qu'il y a une production universitaire? Alors,
de plus en plus. Ensuite, il y a eu longtemps un peu, enfin notamment le monde universitaire, français était assez opaque. Aux États-Unis et en Angleterre, ça s'est développé depuis longtemps. Il y avait, vous connaissez la revue Volume, la revue française Volume, qui est une revue au format carré comme ça, qui pour le coup est faite par des universitaires, mais qui sont plus dans ce qu'on appelle les cultural studies et qui sont, disons, une nouvelle façon de faire de la recherche universitaire depuis les années 60, qui justement est dans un truc un peu moins rigide. Enfin, je résume vraiment à fond, mais qui en tout cas dans un truc beaucoup moins rigide, etc. Et Volume avait fait un numéro sur ce qu'on appelle les Beatles studies. Et en gros, enfin, ce qu'ils ont appelé les Beatles studies. C'est-à-dire qu'en fait, on le sait pas forcément, mais les Beatles, dès les années 60, ont déclenché aux États-Unis et en Angleterre. En fait, c'était un phénomène tellement incroyable et on a un peu oublié tout ça, tu vois, mais leur succès initial, puis ensuite leurs expérimentations, la mythification, etc., ça a rendu les intellectuels tarés, en fait.
On en parlait avec Daz au téléphone il y a quelques jours et je lui disais, c'est vrai qu'on devrait faire un épisode sur les Beatles. On a beaucoup parlé des Beatles, mais ça fait jamais de mal de se rappeler la révolution absolue que ça a été.
Et ça s'est complètement banalisé parce qu'on les entend partout et que Imagine de John Lennon est un tube hyper plan-plan, mais effectivement, les Beatles, c'était, tous les autres groupes les regardaient, enfin c'était complètement ouf, tu vois, c'était vraiment un truc.
Ils ont créé une industrie presque. Non mais il y a un truc, en tout cas de pair avec l'industrie, plutôt disons, il y a eu un truc.
Et donc aux États-Unis et en Angleterre, c'était quand même vachement développé. En France, je dirais que ça a mis. Alors il y a des cas isolés de gens qui s'y sont intéressés, mais par exemple, l'université sur le rap, ça a été jusqu'au début des années 2000 assez. Un peu mou, quoi. Enfin, en fait, ils s'y intéressaient au côté social, politique, etc. Mais parler de la musique en elle-même, de la consommation de cette musique, des différents. Enfin, comment dire, des différentes réceptions du rap, etc., c'était pas forcément super bien fait. Parce que aussi, les universitaires eux-mêmes n'étaient pas forcément des auditeurs de rap, donc il a fallu attendre qu'il y ait une génération.
En fait, c'est ça, c'est que tu dois attendre systématiquement que les consommateurs deviennent des décideurs à un moment donné pour rendre l'art ou la catégorie médiatique recevable ou en tout cas digne d'intérêt, tu vois.
Bien sûr, bien
sûr.
Donc
c'est vrai que là-dessus, je trouve que effectivement les Américains, bon alors déjà, ils ont quand même, enfin, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, mais la musique aux États-Unis a un impact sur la société qui est, et le quotidien des gens qui est beaucoup plus grand que chez nous. Mais ouais, moi quand je vois qu'il y a des universités qui proposent des chairs à des beatmakers. Qui t'explique l'histoire du sample, genre à Duke, tu vas voir Nine Founder qui va t'expliquer l'histoire du sample dans le hip-hop, tu vois. Et le mec, il a littéralement une MK2 devant lui et il fait jouer des vinyles de soul des années 70. Et t'es là, tu fais, mais comment j'aurais aimé prendre cette UV-là, tu vois, dans ma carrière universitaire, c'est un truc de fou, en fait. Et effectivement, on est en retard, alors que le marché français, le marché musical français est un des plus dynamiques et avec le plus de vitalité en Europe, tu vois.
Non, mais c'est une question de, en fait, la perception, la culture artistique française est quand même très portée sur le cinéma, la littérature, l'art contemporain ou la peinture, etc. aussi quand même. Mais c'est vrai que la musique a un statut. En fait, on revient à l'idée de la pop et la France, qui est quand même un rapport un peu compliqué où les gens n'osent pas faire de la pop. Je repensais à ça parce que on disait Drake, j'aimerais bien une sorte de validation de du grand rap. Goldman, par exemple, j'ai appris récemment qu'il était hyper vénère de ne jamais avoir été validé par Télérama, par exemple. Ce qui est bizarre parce que c'est pas non plus un mec hyper Télérama, mais je pense qu'au fond de lui, il est hyper vexe que Télérama ait jamais dit il a sorti
quel
un album
qui est bien. Il faut dire que pendant longtemps dans sa carrière, il a subi une forme de mépris quand même des institutions culturelles. Il y avait le succès populaire, mais en parallèle, c'est compliqué pour lui.
Bien sûr, non, mais moi, perso, j'ai essayé de diguer Goldman récemment. Franchement, il y a zéro morceau qui me plaît carrément.
Ah ouais,
ouais. Jean-Jacques, c'est
mais
pas ton truc.
C'est mon goût, hein. Après et son écriture et tout, je trouve que c'est un truc qui a fait un peu du mal à pas mal d'autres chanteurs, sa manière d'écrire. C'est pas le seul à avoir écrit, c'est aussi une tradition, mais toujours est-il que la musique en France, que ce soit l'université ou même disons le monde de la culture, c'est quelque chose qui a pas été, il y a eu un rendez-vous manqué. Et en fait, c'est aussi dû au fait que la
nos
culture...
Nos actes manqués, chanter Goldman, d'ailleurs, ça tombe bien.
mais il y a aussi le fait que la culture musicale française est vachement orientée sur les textes et que les grandes figures de la musique française, c'est des super grands auteurs, quoi. Brassens, Brel, Piaf, etc. En fait, le texte est hyper important et d'une certaine façon, pendant longtemps, la musique en France a été perçue comme
oui,
du théâtre musical, ouais. En fait, quoi. Tu vois, c'est en gros, il y a une performance, il y a un mec qui c'est des poètes où il y a un peu d'accompagnement derrière. Alors, c'est je caricature à mort, mais c'est quand même un peu ça. Et quand il voit arriver la pop avec des paroles qu'on comprend pas très bien et plein d'effets musicaux et des rythmiques pas possibles et tout, pour eux, c'est quasiment pas la même forme d'art, tu vois ce que je veux dire. C'est genre, tu nous parles de deux trucs différents.
Tu disais d'ailleurs dans une interview que tu avais donnée à Feu Gonzaï, je crois que ça n'existe plus Gonzaï aujourd'hui. Si. C'est vrai
si, le site, le print s'est arrêté.
Ah, c'est ça que j'ai vu récemment, effectivement. Tu disais que tu regrettais, à ton sens, qu'en France, on ait un rapport à la musique très lié au message porté, au texte et à la personne qui l'incarne, mmh. ce qu'elle est censée représenter, etc.
Oui.
Et qu'on avait globalement moins de sensibilité à l'idée de la matière sonore, de l'acoustique, du son en lui-même.
Ouais, alors, l'interview en question, elle a presque 10 ans, je pense. Ouais. Donc, je pense que les choses dans la musique française ont quand même pas mal changé et, en gros, le succès de gros, enfin, je dis pas que c'est de l'expérimentation sonore hyper subtile, etc. Mais je pense quand même l'aspect les basses, le groove, ça s'est quand même vachement mieux imposé en France depuis
Daft Punk.
Non, mais même les tubes, enfin, je sais pas si, mais enfin, tu vois le succès de Niska, de MHD, de la pop dite urbaine, etc. C'est quand même un truc qui était pas forcément prévisible il y a 15-20 ans, quoi. Tu vois ce que
ouais,
je veux dire.
Ouais, mais d'un autre côté, on a eu Stromae aussi.
Oui, c'est vrai.
Tu vois, qui reprenait.
Ça serait plus dans une tradition, c'est vrai.
De chanteur à texte, ouais. Où finalement la musique est accessoire. Alors que Niska ou MHD, techniquement, tu peux remplacer Niska et MHD sur les morceaux et ça changera pas l'impact, en fait, tu vois. Oui, c'est vrai. Mais je pense qu'il faut aussi accepter le fait que des fois de la bonne musique, ça peut être avec un chanteur ou une chanteuse interchangeable. En fait, on s'en fout. Tu vois.
Oui, bien sûr. Ça, je suis d'accord. Mais je dirais que l'aspect, en tout cas, je pense que la France, je dis pas que c'est un progrès, mais en tout cas, le public est plus sensible et un peu moins fixé sur ce truc de genre ah moi j'ai envie qu'on me raconte une histoire et de m'identifier au texte, etc. Même si ça reste un truc dans le rap français, il y a plein de rappeurs. Enfin, il y avait cette.
Voilà, t'as tous les storytellers qui se pendent par le balcon là en mode ça y est ma carrière est foutue.
Non mais il y avait toutes ces vannes sur les fans de Damso qui disent ouais je comprends trop ce qu'il ressent machin etc. Je m'identifie trop, je sais plus comment
en plus parfois dit. Toxique quand même, je sais pas s'il faut s'identifier à Damso.
Ouais, non mais tu comprends, c'est un personnage,
il est entier.
C'est bien aussi qu'on parle de ces gens là tu vois, voilà, bon il en faut aussi,
mais je pense que ça s'est un peu amélioré. Ensuite je pense qu'effectivement on est encore dans des génération, enfin, tu vois, il y a effectivement plein de gens qui disent genre ouais, les paroles de rap, mais c'est quoi? Pourquoi ils parlent aussi mal des femmes et pourquoi ils font l'apologie de l'argent? En fait, ils comprennent pas que c'est qu'en fait c'est des mots qui sont pas vraiment dits pour signifier un truc. Ouais. Tu vois, ils restent bloqués sur genre non mais tu dis quelque chose, tu l'as dit, hein, c'est écrit là maintenant, c'est bon, c'est ton avis.
Même si on a le droit de les mettre face au fait que ça a un impact sur la société,
bien sûr.
Etc. sur les auditeurs. Mais tu as raison de rappeler cette base aussi.
Bah, ce qui est marrant, c'est que les gens vont se poser cette question-là pour des artistes français, mais personne ne va aller essayer de comprendre une chanson de Michael Jackson. Je vous mets au défi de comprendre n'importe quel morceau de Michael Jackson. C'est imbitable. Ça n'a aucun putain de sens.
C'est à cause de la traduction. C'est
ça n'a aucun sens.
Mais oui, en tout cas, je pense que c'est meilleur. Mais il y a quand même encore vachement une culture du beau texte, de la belle plume, en fait, qui je pense, entrave une partie du plaisir
freine,
qu'on peut avoir dans la musique. Quoi. Voilà,
et qu'est-ce que... Parce que... On a parlé du monde universitaire, etc., du fait qu'en France, aux États-Unis, ça fait quelques décennies même déjà, et qu'en France, de plus en plus, on se penche notamment sur les musiques populaires. Pourquoi, enfin, nous, les auditeurs, les amateurs de musique, vous, dans le cadre d'une revue, pourquoi ces regards, ils sont intéressants? Qu'est-ce que ça peut apporter? Est-ce que tu peux donner des exemples, par exemple, de sujets ou de traitements du monde universitaire? Tu te dis, putain, là, ils apportent un truc. Parce qu'on pourrait se dire, moi, je suis un auditeur DLT, et je me dis, est-ce que j'ai besoin qu'un mec qui a peut-être fait 5, 7, 8, 8, 10 ans d'études, il me raconte des trucs sur la musique, alors que moi, ça fait 10 ans que je fais de la musique, tu vois? Moi, je suis musicien, c'est les musiciens qui doivent parler de musique.
Non, mais ben, là, je peux pas te contredire. C'est sûr que effectivement, lire des trucs, en plus là, si on parle strictement de des ouvrages de recherche universitaire, c'est vrai que il y a quelque chose où, moi-même qui ne suis qui suis entre guillemets sympathisant universitaire, mais qui ne suis pas universitaire, je lis des choses où je me dis putain, c'est vrai qu'ils mettent du temps à arriver au moment intéressant. Le mec met 10 pages à expliquer sa méthode, ses références. Après, c'est comme ça que ça se passe. Tu vois ce que je veux dire? C'est t'écris un livre
sur une certaine rigueur,
de la littérature scientifique. T'arrives pas en disant n'importe quoi, tu vois, en sortant des clichés sur Kanye West, comme ça, vite fait, tu vois ce que je veux dire. C'est pas, tu t'écris pas un essai de un livre de journaliste que tu vends vite fait et t'en écris un autre l'année suivante, tu vois ce que je veux dire. Je vise personne, j'ai pas de nom en particulier, mais il y a beaucoup ce cas des journalistes qui ont une idée d'article qui transforme en livre et voilà, je te balance un truc pas du tout rigoureux, qui veut un peu rien dire, ou genre le rap est la voix du bitume ou je ne sais quoi, bon bref, alors que ce soit sur le rap ou sur d'autres musiques. En fait, je pense que l'approche, j'aurais pas, surtout dans l'université française, là, comme ça, j'ai pas un exemple.
Ça peut être aux États-Unis ou ailleurs.
Qui me vient comme ça.
Non, mais on avait aussi un gars de la revue, la Nouvelle Revue Française, là, qui avait fait l'exégèse de Booba, sur. Pourquoi est-ce que le style de Booba est révolutionnaire, tu vois?
Non, pas.
Et en fait, je trouve ça intéressant d'avoir justement des gens qui sont pas forcément du cru, tu vois, qui sont pas immergés dans cette musique-là, qui justement
l'apprennent
de l'extérieur, avec un regard extérieur au truc, où il y a pas forcément d'affect, etc., et qui se disent putain, ça mérite d'être décortiqué parce que c'est pas aussi con qu'on pourrait le penser.
C'est ça, en fait, l'université, enfin un bon texte universitaire, l'intérêt, au-delà, une fois que tu passes un peu le truc de la méthode un peu relou et du fait que le mec va pas te sortir des punchlines toutes les pages pour t'exciter, tu vois. Par exemple, un texte qui est un peu un classique des cultural studies sur la musique, c'est un texte de Philip Tagg qui date des années 70 ou 80, je sais plus, où en fait il explique, où il déconstruit, tu veux, certaines idées reçues chez les fans de jazz, chez les gens qui soutiennent le jazz et qui définissent le jazz comme une musique entre guillemets spécifiquement afro-américaine ou spécifiquement africaine, je sais plus exactement quel est le, où il dit en fait il y a des spécificités, la syncope, les blue notes, etc. Et en fait il passe tout son texte à déconstruire, à dire en fait la syncope existe dans des musiques européennes blanches, la blue note existe dans des musiques, enfin dans d'autres musiques, en fait il fait là, je caricature très bien, mais le texte est super et pour le coup il est assez fluide à lire et je le conseille, il est disponible en ligne, on pourra mettre la référence éventuellement, et mais c'est vraiment un texte qui permet de se calmer un peu avec genre ça c'est la musique comme si voilà, et d'être dans un truc un peu plus de patience, on va dire. En fait c'est ça que j'aurais envie de te dire, c'est qu'en fait il y a effectivement la fabrication de la musique qui génère un savoir chez le musicien, c'est sûr. Ensuite le regard de quelqu'un d'extérieur sur sa fabrication, il peut l'ignorer, mais il peut aussi se dire bon bah il a un regard que je n'ai pas, peut-être que ça va en tout cas je peux l'écouter. C'est pas, il va pas, alors après oui il y a des universitaires qui vont peut-être vouloir prouver des choses et s'opposer à certaines idées,
comme tu le disais, il y a cette rigueur, etc., ces codes qui normalement permettent d'éviter trop cet écueil, du truc personnel, du machin.
De toute façon, je pense que tu peux pas parler réellement de ton art si c'est... Enfin, en gros, il faut que ça soit quelqu'un d'extérieur à n'importe quelle discipline qui donne un avis aussi.
Oui.
Tu vois, pour être justement dépassionné.
Après, il peut y avoir un travail réflexif.
Être musicien quand tu écris sur la musique, ça peut aider. Moi, c'est pas mon cas, mais je pense que il y a quand même une sorte de. Enfin, quand tu sais par exemple comment. Enfin, ça peut être aussi un piège, mais quand tu sais comment c'est fait,
ça peut t'enfermer.
Que tu devines que c'est un preset, que tu devines que en fait c'est.
Ça peut t'enlever la spontanéité.
Ça peut aussi t'enlever la spontanéité. Mais c'est enfin les deux. Je fais un peu une réponse de
Normand.
De Normand. Les deux sont possibles, mais en tout cas. Je voudrais encourager les gens à pouvoir s'intéresser à des trucs universitaires. Et nous, ce qu'on essaye de faire dans Audimat, c'est justement de rendre ces textes universitaires peut-être
disponible,
un peu moins disponibles et un peu moins enfermés dans une réflexion interuniversitaire. Parce que souvent aussi, c'est ce qui se passe, c'est que textes universitaires sont des réponses à d'autres publications en disant voilà, je suis pas d'accord avec Philippe, il a dit ci, il a dit ça, et moi là, je vais reprendre. Et là, je pense qu'il se trompe et que sur le terrain, il a pas vu la même chose que moi et tout.
Mais c'est du clash de doctorants.
Mais
et puis surtout, l'intérêt aussi de l'approche universitaire des sciences sociales, c'est que elles mettent en perspective l'expérience individuelle et l'expérience collective. Mmh. Et ça, le mec qui produit la musique, il peut peut-être voir quel impact ça a sur les dizaines de personnes autour de lui, sur lui-même, mmh. etc. Mais par contre, d'avoir un regard plus transversal,
plus global aussi,
plus global
comment
sur,
ça s'inscrit, ouais, dans...
sur ce, ouais, ouais. Et ben ça, on a besoin des sociologues, des anthropologues.
Etc. Après, si, il faut aussi, je pense que beaucoup de musiciens ont quand même, enfin notamment les musiciens qui ont du succès, se rendent compte qu'une fois qu'ils ont fini leur œuvre, elle leur appartient plus qu'à moitié c'est et vrai. Que ça devient aussi l'œuvre. Alors, on parle de là, ça peut être carrément des réutilisations avec les technologies actuelles, etc. Les remixes pirates ou les trucs sur TikTok, etc. Mais aussi à partir du moment où quelqu'un a décidé de la prendre avec telle sensibilité et telle, disons, structure d'émotion. Moi, ça m'est arrivé d'écrire des articles sur des morceaux d'artistes où je leur envoyais le truc. Ils me disent, personnellement, c'est pas du tout. Enfin, c'est bien, ça m'intéresse que tu dises ça, mais c'est vraiment pas du tout ce que j'avais en tête comme ouais. émotion. Mais cool, tu vois, si tu le, si tu vois autre chose, c'est, tu vois, ça se partage et c'est subjectif. Ouais. Mais enfin, non, mais surtout aussi, je pense qu'il y a dans le travail de création musicale quelque chose qui, par définition, comme tu travailles quelque chose d'hyper collectif et que la musique est un truc hyper qui peut pas vraiment être isolé quoi individuellement, tu vois, t'es toujours en train, bon alors tu parles,
il y a un paradoxe que tu parlais de trucs intimes tout à oui. l'heure et en même temps c'est aussi du lien aux autres,
bien enfin, sûr c'est... bien sûr c'est ça fait partie des gros contradictions hyper motrices de la réflexion et justement de c'est ce qui me donne aussi envie de continuer à réfléchir à ça. Mais en fait quand tu fais un morceau, même si surtout dans des musiques fonctionnelles, dans la dance music et tout, tu sais que c'est quelque chose qui va être ensuite qui va plus t'appartenir et que tu suis, en fait tu t'inscris dans un grand bâtiment, un grand édifice quoi.
Tu viens de mettre un mot qui nous permettra après de clôturer et de clore. Je sais jamais, il faut dire clôturer, clore. Bon, clore.
Les deux fonctionnent.
Les deux fonctionnent. Mais
clôturer, c'est un peu comptable. Ouais, ouais, c'est bien aussi.
C'est
très bien.
C'est un peu clôture aussi, tu sais, dans le champ. Clôturer, c'est un peu bizarre. Bref, de clore cette partie et on terminera avec une toute dernière un peu plus brève. Mais tu as parlé de fonction. Est-ce que ça aussi, c'est un truc. Parfois, d'ailleurs, la recherche universitaire peut nous apporter. Mais au-delà de tout ça, est-ce que toi, à travers ce que tu, tous tes travaux, à travers Audimat, à travers Musique Journal, etc., tu te dis qu'on ne doit pas aborder toutes les musiques de la même manière et que peut-être, parfois, il y a une question de la fonction de cette musique, de quelle place elle va avoir, de quelle manière elle est produite, comment elle va être écoutée, et puis ensuite, qu'est-ce qu'elle va faire à son environnement. Et donc, il y a des fonctions peut-être différentes. Qu'est-ce que t'en penses de ça ?
Oui, non, mais ça, là, je peux que te t'approuver. Comment dire ? Il y a d'une part, en fait, la réaction, on en parlait un peu en antenne, il y a aussi le fait que la musique étant quand même quelque chose de souvent physique, même s'il y a des trucs qui peuvent être très, très... comment dire, des émotions très cérébrales, mais bon, quand même, c'est globalement, ne serait-ce que le volume acoustique, si tu écoutes de la musique forte, tu l'écoutes au casque, si tu l'écoutes sur un son un peu pourri ou bien...
Le placement d'air et qui ensuite...
Exactement, si tu l'écoutes dans un magasin, si tu l'entends de loin, etc. Tu vois, moi, ça m'est arrivé de découvrir des morceaux entendu par des gens qui passent en caisse en bas de chez moi et ça fait caisse de résonance et je suis là, putain, j'avais écouté ce morceau chez moi, j'avais pas trouvé bien, et là en fait avec
l'expérience sensorielle,
avec l'ambiance, on est vendredi soir et tout, waouh, putain, c'est cool,
putain, il donne raison à tous les mecs qui roulent avec la musique.
Ou je sais pas si ça vous arrive parfois, mais d'adorer un morceau dans un film par exemple, ouais. Justement, ouais. Et en fait, et il a, alors je sais pas si c'est, je me suis bien parfois sûr. Demandé mais si c'était aussi la compression du film ou j'en sais rien, et puis après tu vas l'écouter sur une plateforme et ouais, il me fait sûr. Pas le même effet.
Bien sûr, mais il y a aussi après moi,
l'image.
Après, il y a aussi ce truc de la texture. Moi, j'écoutais beaucoup de cassettes. Enfin, j'enregistrais beaucoup la radio sur cassette. Et il y a des morceaux. Donc, c'était souvent des copies de copies, etc. Et il y avait des morceaux où j'étais habitué à les écouter avec un son hyper dégradé. Et quand je les ai écoutés en vrai CD, bah, je trouvais ça moins bien. Ouais, enfin, je trouvais ça, en tout cas, trop. Enfin, c'était pas la même personnalité.
Tu vois, l'effet que ça me fait dans les films, souvent, c'est cette emphase mise sur les graves, tu sais, le truc. Et qui, en fait. Ça peut être une dégradation, mais qui en fait me parle sur le moment, tu vois. Ouais. Après, quand j'écoute le truc plus équilibré, ça manque de ce truc qui tapait un peu.
C'est vrai. T'as raison. Et après, disons que le destin des musiques, surtout aujourd'hui, où elles sont dispatchées un peu partout, comme on disait, que ce soit dans des séries, dans les magasins, dans les commerces, dans les musiques d'attente de téléphone, etc. C'est tellement, tu peux jamais te préparer, tu peux pas être sûr qu'une musique va pas te parler, et en même temps tu peux aussi te préparer à ne pas être ambiancé par des choses qui sont censées te plaire. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça m'a pas mal fait ça récemment en écoutant les listes de, enfin en regardant les listes de nouveautés de fin d'année, etc. En me disant putain là c'est bien ça, ça coche un peu toutes les cases. Je vais écouter, tiens un truc de house, de Détroit, machin et tout. Et en fait bah je suis pas dans l'ambiance, ça passe pas quoi, tu vois. Et à côté de ça, je vais écouter par accident un morceau de Jules chez le boucher et je vais trouver ça super. Tu
sacré
vois.
Accident là, ouais, là tu m'étonnes.
J'ai un boucher qui écoute tout le temps Jules.
C'est vrai,
dans le 20e, allez-y.
C'est incroyable.
Place Edith Piaf, n'hésitez pas, il y a Jules non-stop.
Place Edith Piaf en plus.
Place Edith Piaf, aucun respect.
Moi j'aime bien cette idée de fonction de la musique. En fait, derrière, il y a l'idée que suivant le moment, suivant ce que ça va accompagner, suivant la disponibilité d'esprit que tu as, l'attention que tu peux porter, etc., bah, tu vas pas avoir le même rapport à la musique, pas avoir envie d'écouter les mêmes choses, etc. Et ce que je trouve intéressant, en partant de ce constat, c'est que ça permet d'éviter l'erreur de la hiérarchisation.
Bien sûr.
C'est-à-dire que, parce que il y a pas longtemps dans l'épisode on avait un peu rigolé autour, moi je disais qu'il y a des trucs éclatés et on a le droit je pense de dire parfois ça, c'est, je considère que c'est de la merde.
Ouais, attention hein, Salman.
Ouais,
j'ai déjà fait attraper le col hein.
Mais c'est vrai, mais je l'assume quand même, je pense qu'il y a des trucs qui objectivement sont mauvais.
Okay.
Par contre, je crois qu'ensuite c'est pas des trucs propres à des esthétiques spécifiques ou des scènes spécifiques, etc. C'est que non, peut-être que ça me parle pas parce que c'est pas adapté à la façon ou ce que c'est censé, tu vois, sur le moment générer, etc.
Bien sûr.
Et peut-être que on parlait de la musique live, tu parlais de rumba congolaise, Papa Wemba, et d'une musique qui aussi est faite pour être défendue en live, bah, y a plein de trucs où la fonction, ça va être de communier et de vivre une expérience, une énergie particulière, puis à la maison, j'aurais pas envie de l'écouter.
Bien
et
sûr.
C'est pas grave. Et ça,
mais
ça
alors attention, que parce que ça, c'est un biais.
Ouais.
Parce que moi, ma théorie à moi, c'est,
oui,
que...
Oui, c'est que tout sonne bien en live.
En live, toutes les musiques passent, en fait.
Je sais pas.
Donc en fait, c'est pas...
Ça passe mieux, en tout cas, c'est vrai.
Mais c'est pas un critère. Tu peux pas dire, ah ouais, mais comme ça marche en live, c'est de la bonne... Non, en live, tout fonctionne.
Au contraire.
Parce que t'es là...
Je pense que plus ça marche en live, moins c'est bon
en
disque.
En fait, ouais, en live, le live, ça gomme plein de trucs, en fait.
Il y a l'effet de groupe, les gens sont là, ouais, et tout, ouais. Et donc t'es un peu en...
Puis le son, des fois, enfin, le son parfois merdique, où toi t'es pas bien placé, oui. Et puis du coup, ouais, le live, ça marche. Ouais. Justement, c'est quand tu l'écoutes chez toi, tu vois, dans ta pièce blanche, avec juste un néon,
c'est
un
bruit,
néon comme
c'est
ça,
ouais,
un tabouret, et t'écoutes comme ça, et là, si tu ressens pas la même chose, c'est que la musique, c'est de la merde. Voilà, c'est simple. Tout
mais,
simplement.
Non, mais ce que je voulais ajouter aussi, c'est, ouais, que t'as pas tout le temps envie d'écouter des classiques de la musique, tu vois ce que je veux dire. Tu vas pas écouter tous les jours To Pimp a Butterfly de Kendrick Lamar, tu vois. C'est
ah ouais, non. Encore que.
Mais même des disques plus faciles entre guillemets, ouais. Illmatic par exemple, je l'ai réécouté récemment et je le dis sans complexe, ça m'a un peu fait chier, tu vois ce que je veux dire. Je me suis dit,
c'est très marrant que tu dises ça, parce que
pas, tu vois, je me suis dit, en fait, c'est superbe, c'est super et tout, mais là j'ai pas envie d'écouter ce classique incontestable, tu vois.
Alors j'avais... c'est marrant parce que j'ai vu un petit qui évidemment s'est fait défoncer sur Twitter.
Ah, c'était les prods, c'est ça que, ouais, tu vois, putain, le mec
qui tweet que bon, j'ai écouté Illmatic, en vrai les prods elles sont pas ouf. Et là tu dis non mais mec, et donc c'est Madizum je crois qui donc il y a un beatmaker du cru, hein, chez nous, qui est très 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 vivace, hein,
sur Twitter,
oui. Un peu réac aussi,
oui, pas
qui
toujours
laisse pas, qui laisse
dans
pas
le
trop
sens.
Passer les
ouais.
Les oui.
Ouais, ouais, mais du coup là il lui est tombé dessus à bras raccourcis, franchement. J'ai rigolé parce que s'il y a bien un truc qu'il faut retenir d'Illmatic, c'est les prods, tu vois, donc mais je suis d'accord avec toi, c'est vrai que, mais après c'est changeant.
Bien sûr, non, mais après
c'est là,
je dis pas que j'ai réécouté et qu'en fait c'est pas bien. Je dis juste que on n'est pas tout le temps dans une ambiance où on, ouais, va écouter la musique la plus noble du monde,
ouais,
la plus riche et la plus significative. Et il y a des moments
après ce qui est intéressant,
je dis pas
c'est qu'on
a envie d'écouter de la musique de fête foraine, mais on a envie d'écouter parfois des trucs qui sont du sous-ilmatic, mais qu'on a moins écouté et qui sont super.
Surprendre aussi.
Voilà. Non, mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il faut peut-être penser au fait que le fait qu'Illmatic soit un classique, c'était pas forcément une volonté de Nas au départ.
Non.
Lui, il a 19 ans, il dit ce qu'il a à dire, il s'entoure de beatmakers de talent, etc., qui vraiment craftent un truc assez fou, et bizarrement, enfin comme souvent avec le rap, c'est son premier album qui est son classique. Mais est-ce que lui, il s'était dit, je veux que dans 35 ans ou 45 ans, il y ait encore des gars qui se disent, putain, quand même cet album, mais quel classique. Bah, je pense pas, le gars il avait pas du tout cette vista là, c'est pas
non,
possible.
Non, mais quelle fierté par contre.
Bah ouais,
c'est ça, c'est un grand but, je pense, pour beaucoup d'artistes. C'est Quelle chance incroyable d'arriver à toucher les gens à ce point pour qu'on en parle 40 ans, 50 ans après.
Ça, c'est sûr. Oh. C'est...
Et que t'aies des gens qui se fassent attraper le col. Parce que
mais après, il y a des artistes qui sont saoulés qu'on ne retienne que leur vieux classique et qui disent genre, non, mais j'ai sorti plein de disques depuis, tu les écoutes, ouais, tiens, je t'envoie mon dernier single, et tu l'écoutes, c'est horrible.
À la fois, je les comprends, en même temps, c'est de l'ego mal placé, des fois. C'est... Oui. Bah, comme tu le disais, ça leur échappe à un moment.
Bah, ouais.
Il faut l'accepter. Que ça
moi, je serais content qu'on me dise, franchement, ton premier album, c'est un classique intergalactique. Par contre, que les autres sont pas ouf, ouais, mais c'est pas grave.
En fait, détrompe-toi. Détrompe-toi. Je ne contredis pas à 100%, mais je pense qu'il y a des gens vraiment qui trouvent que. Où c'est leur où ils traînent ça toute leur vie. Ils disent genre, ouais, j'ai fait un classique que tout le monde a adoré. C'est super, mais visiblement, j'ai jamais réussi à faire un deuxième classique. Donc, c'est un peu vexant. Et même parfois, moi, j'ai eu l'impression de faire mieux. Mais
en fait non.
En fait non.
Ouais.
Et y a
c'est dur. Et c'est là qu'on a besoin des universitaires pour qu'ils nous disent. Eh ben oui, d'un point de vue théorie musicale, le nouvel album est beaucoup mieux, d'accord.
Mais t'as raison. Le constat que tu fais, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes qui peuvent être frustrés. Et puis je vois aussi parfois avec les années où ça s'agisse et ils finissent par réaccepter. C'est cette situation.
Oui, bien sûr.
Par exemple, typiquement,
ils se résignent, en fait,
leur titre qui a marché, et ben pendant 15 ans, ils se sont dit, je le fais plus sur scène.
Ouais.
J'en peux plus. Ouais. Puis en fait, ils arrivent petit à petit vers la fin de la carrière, ils disent, putain, c'était quand même un beau moment.
Ben, les gens sont contents. Les concerts se passent mieux quand même quand je le fais.
Ce titre, on va le rejouer, quoi.
Ouais, ouais.
Je trouve ça beau, d'une certaine manière.
Oui, oui, non, mais après, c'est hyper dur. Moi, je suis pas forcément, je lis pas forcément beaucoup d'autobiographies ou de biographies d'artistes et tout parce que j'ai pas pris cette habitude. Les chroniques de disques, j'en lis plein. Les trucs de discographie, j'en lis plein. Mais la vie du musicien, parfois, ça me blase un peu, quoi. Mais je pense que ça doit être parfois hyper dur. Et c'est pour ça que c'est incroyable. Les artistes comme Bowie, qui a eu un peu un passage à vide, mais qui a quand même fait un dernier album qui sort juste avant sa mort, qui est incroyable. Neil Young qui a quand même continué à faire des trucs fous, c'est pas mal. Dans le rap, la longévité totale, c'est une question plus compliquée.
C'est des anomalies, ceux qui restent sur des décennies pour le moment. Mais bon, c'est plus récent.
Ouais, dans le rap, vraiment, généralement, c'est ton album qui est produit avec trois bouts de ficelle et une envie de ouf et tu vois pas de moyens, rien, qui va marquer en fait. Parce qu'à partir du moment où tu manges bien, où t'es plus trop énervé contre le système machin, où t'as plus grand chose à raconter, bah ouais, tu t'encroûtes, tu t'embourgeoises.
Ouais, je sais pas, pour un
Snoop, meilleur album, bah Doggy Style, clair. Le Wu-Tang, meilleur album, 36 Chambers, Mobb Deep.
Alors, Snoop, pour le coup, il a fait des singles
derrière,
vieux,
bien sûr.
Tu vois, enfin vieux, à plus de 35 ans, quoi.
Bien sûr, bien sûr. Et puis dans plein de styles différents. Ouais. Alors,
je trouve que c'est un bon exemple de longévité.
Oui, mais n'empêche que.
Mais album, ouais, non.
Meilleur album. Ouais. C'est le premier.
Non, par contre, c'est vrai qu'il faut pas qu'on, parce que ça serait une connerie, je pense. Autant en France, on peut se poser la question de la longévité, autant aux États-Unis, c'est déjà prouvé qu'il y a des mecs qui ont 30, 40 ans derrière.
Mais
eux,
qui
sont toujours forts, pertinents, etc.
Trouve-moi un rappeur, même un Jay-Z ou autre, qui a fait un meilleur album après le premier qui a tout niqué, il y en a pas. Même Jay-Z.
On va poser la question sur Twitter, je pense qu'on va avoir un bon gros débat.
Et dites-nous aussi dans les commentaires.
Non mais il n'y en a pas, cherchez pas. J'ai déjà fait moi-même, j'ai fait une étude académique sur le sujet.
Mais juste pour clore ce podcast.
Ouais,
c'est pas une vraie dernière partie, parce que ça fait déjà pas mal de temps qu'on discute, mais c'est juste te poser deux questions, Étienne, avec ton regard. Est-ce que tu as déjà quelques astuces pour découvrir de la musique aujourd'hui? Hormis aller sur Music Journal, évidemment. Des astuces juste, tu vois, rien de forcément extraordinaire, mais ou ce que tu appliques toi, j'en sais rien, pour donner des idées à nos auditeurs, ou à, d'ailleurs à Daz et moi aussi.
Alors je dis ça vraiment en impro. Taper des mots un peu au pif dans Spotify ou Deezer et tout ça peut donner des bonnes surprises. J'ai découvert des artistes. Non mais en fait pour France Culture, j'avais fait des émissions thématiques où j'avais fait une émission au moment de la COP21, donc en 2015, et c'était sur le climat, et donc j'avais tapé genre pluie, neige, météo, dans plusieurs langues, etc.
Et tombé sur tous les albums de Molécules.
Et je suis tombé sur des tas de trucs hyper bien, mais parfois, tu sais, des icônes péruviennes dont j'avais jamais entendu parler et qui font une sorte de musique.
Est-ce qu'elles existent vraiment ou est-ce que c'est Spotify qui les a
fait? Elles existent totalement, avec parfois des histoires. Mais d'ailleurs, j'avais écrit un article sur cette icône péruvienne qui a eu un destin tragique, elle a été assassinée, bref, toute une histoire. Donc, ça peut toujours marcher, c'est assez
donc
marrant parce
que,
en fait, les catalogues de de Deezer, enfin des plateformes sont tellement monstrueux de tout et n'importe quoi que parfois, tu sais, c'est comme quand tu cherches un peu justement un classique et que tu tombes en fait sur plein de remix ou plein de versions qui ont été faites et tout. Et parfois, par curiosité, tu vas regarder, bon, les trois quarts, c'est horrible, mais t'es là genre, ah putain, c'est un remix hyper bizarre, ça sort d'où et tout, ça marche assez bien. Donc ça, bon, après, c'est un peu plus de la découverte de curiosité. Ensuite, écoute, qu'est-ce que je fais? Je fais Bandcamp, donc c'est pas très original, mais Bandcamp, en gros, quand il y a un truc que je kiffe, je vais voir tout le truc du label, je vais regarder les gens qui aiment le groupe, ce qu'ils écoutent, ce qu'ils ont acheté, etc. Ça, c'est, franchement, c'est assez précis. Enfin, c'est un peu niche, mais ça marche bien. J'achète des CD et des vinyles chez les soldeurs. Et là, bon, bah, tu découvres franchement toujours un peu des trucs, que ce soit du rock FM années 80, de la chanson française et tout. Et un truc que je fais depuis peu et qui est là, qui est un projet qui va essayer, enfin, potentiellement donner un podcast, c'est d'aller diguer les médiathèques. Les trucs qui sont en rayon, mais aussi, en fait, j'ai pris contact avec pas mal de responsables de médiathèques pour aller fouiller leurs réserves, en fait, les trucs qui sont plus empruntés, mais qui gardent avant de les détruire. Ça dépend, il y a certaines, les gardent, enfin, il y a vraiment une politique de conservation qu'ils font parfois qu'ils ne jettent rien. C'est le cas à Lyon, c'est le cas à Paris. Et donc, en fait, ils ont, une sorte de paysage infini de toute la musique qu'ils achetaient, enfin, en gros, qui jugeaient bonne d'acheter à l'époque, ce qui donne, alors, il y a beaucoup de trucs français que je découvre, des sortes de, tu vois, des sous Jean-Jacques Goldman des sous Étienne Dao, mais parfois vraiment des trucs hyper surprenants. Et donc je découvre pas mal de choses par ce biais aussi en ce moment.
Donc les médiathèques, rappeler que ça peut être intéressant. Mais c'est vrai qu'on a une grande bibliothèque, chance, quoi, les bibliothèques, on a une grande chance en France. Alors, je sais pas comment ça marche pour la production étrangère, mais il y a le dépôt légal en France.
Bien sûr.
C'est-à-dire que la BNF, la Bibliothèque
Coffre au Trésor,
eh bien, dès que quelque chose est produit en France, on doit envoyer un exemplaire à la BNF pour qu'elle l'archive, qu'elle le garde, etc.
Ouais. C'est génial. Ce qui est absurde, oui, mais on envoie l'exemplaire, mais il n'est pas consultable.
Oui, c'est pas auprès du public, ça c'est vrai. Mais c'est là, tu vois, et ça peut être utile. Oui. Après, il y a une politique de numérisation de plus en plus importante, etc., mais c'est compliqué.
Très compliqué, il y a l'histoire des droits d'auteur et tout, et en fait, on ne peut pas numériser. Enfin bon, bref, c'est justement, je suis un peu dans ces problématiques en ce moment, c'est un vrai micmac.
Allez, dernier truc encore, le deuxième, c'était, je pensais que ça serait peut-être toute une partie, mais c'est pas grave, tu vas nous donner une piste d'ailleurs, ou des pistes, pour des épisodes de DLT. Tu vois, tu vas faire mon travail.
Avec plaisir.
Qu'est-ce qui est selon toi, sur les 10-20 dernières années, des phénomènes musicaux, pas forcément des esthétiques, des genres, des scènes, ça peut être aussi un bouleversement technologique, j'en sais rien, des trucs où tu t'es dit, putain, il s'est passé quelque chose. Toi, en ayant, tu vois, vous écrivez régulièrement dans Audimat, vous accompagnez les auteurs, etc. T'as forcément un regard, ouais.
Okay, pas forcément des gros phénomènes. Je veux dire, ça peut être des trucs...
ce que tu veux, mais des trucs qui te semblent, sur les 10-20 dernières années, qui ont été des grands changements dans la musique, dans le monde de la musique au sens large.
Ableton, pas. Allez.
Je ne sais pas si ma réponse va te satisfaire. Moi, personnellement, je trouve que l'Amapiano, c'est vraiment une musique qui me renverse. Je trouve que...
Musique d'Afrique du Sud.
Et en fait, house, ce qui est assez fou, c'est qu'en fait, il y a eu toute une scène house. Alors aujourd'hui, on a ça. Il y avait eu le mini phénomène DJ Mujava il y a 15 ans maintenant avec ce morceau qui s'appelait Township Funk, qui avait été licencié en Europe et enfin dans le monde par le label Warp, qui était devenu un tube dance floor d'une musique donc personne ne connaissait en dehors d'Afrique du Sud. Et ce qui est marrant, c'est que l'Afrique du Sud, en fait, a une hyper longue histoire avec la house. Il y a des gens qui font de la house là-bas depuis les années 90. Il y avait des clubs gays et tout ça. Enfin, c'est un truc assez, et qui est en fait assez ignoré. Et ce qui est marrant, c'est que par exemple, dans les années 2000, alors que la deep house, entre guillemets, classique des années 90, new-yorkaise et New Jersey, etc., marchait plus trop en Europe, à Johannesburg ou à Cape Town, jouaient des gros DJ, enfin, les Masters at Work, etc., étaient des stars et en fait étaient des références pour les producteurs house de l'époque. Bref, pour la faire rapide, l'Amapiano, ce que je trouve incroyable particulièrement, c'est cette espèce de mélange de vocaux souvent assez sucrés et hyper joyeux et tout, et ces lignes de basse complètement tarées, hyper dark, qui ressemblent un peu à... c'est difficile de comparer ça à quelque chose, mais disons que ça ressemble à un mélange. Enfin, ça fait un peu le hardcore continuum dont je parlais tout à l'heure. Ça ressemble un peu à de la jungle, un peu à du UK garage, etc. C'est bref, ça me fascine particulièrement. Et il se trouve que j'ai un copain qui est DJ qui s'appelle Jess, qui a un label où il sort plusieurs artistes qui viennent un peu du même coin d'un township de Pretoria. C'est deux groupes, il y a un truc qui s'appelle Toxicated Keys et un groupe qui s'appelle Gem Valley Music, et ils font ce qu'on appelle du rough amapiano. Et donc en fait il y a encore ce truc de basse qui est encore plus accentué, et honnêtement c'est vrai que quand il m'a fait découvrir ça il y a un an et demi, deux ans, je me suis dit ouais putain, ça fait bien 10 ans qu'un truc disons musique électronique dance floor actuelle mais pas autant pulvérisé quoi. Voilà. Et après je trouve d'une façon, enfin un mouvement général que je trouve hyper important depuis 10-15 ans, c'est le fait que les musiques caribéennes et latino-américaines, donc bon, le reggaeton. Le chata qui est plus confidentiel mais qui devient un truc quand même assez important, soit devenu presque la langue vivante 1 de la musique de club et presque de la pop, tu vois ce que je veux dire. Ça pour moi c'est vraiment un gros bouleversement qui certes n'est pas exempt d'abus commerciaux et tout.
Normal.
Mais pour moi, c'est un truc vachement important qu'il y ait eu une affirmation de ces musiques qui étaient quand même hyper, hyper isolées à une époque, alors que sur place, elles cartonnaient, mais que c'était des trucs vraiment assez peu...
Très local.
Et en Europe, très peu de gens écoutaient ça.
Donc, qui en plus représente quelque chose pour des diasporas, pour des secondes, troisième génération, ouais, etc. De réaffirmer un truc identitaire aussi.
Quel dommage qu'on ait déjà fait cette émission sur le reggaeton, Salman.
Absolument. Ah là là. Ah, oui. On vous renvoie effectivement à ce très très bon épisode sur le reggaeton. On pourrait aussi, d'ailleurs, dans une certaine mesure, c'est différent, mais on avait parlé un petit peu avec Roda aussi, d'ailleurs, que vous avez édité.
Bien sûr. C'est vrai qu'on a oublié de la mentionner.
Chez Audimat,
on l'embrasse,
Roger Chukwukam, avec Sensible sur le R&B, un épisode là-dessus. Il y a son bouquin aussi, évidemment. Oui, coucou Roda, effectivement.
Mais oui, en tout cas, je trouve que d'une façon générale, il y a le fait de enfin, pas de sortir de l'anonymat, parce que c'était pas vraiment des musiques anonymes, mais en tout cas d'en faire, de les banaliser dans la musique pop, je trouve ça hyper, hyper, ça me touche quoi en fait. Je trouve que ça me touche musicalement, mais je trouve que c'est aussi important en termes culturels, politiques quoi.
Merci beaucoup Étienne. Bon, par contre, tu nous as pas trouvé de futur épisode de DLT. Je suis un peu déçu. Moi, je pensais qu'il allait nous mâcher le travail.
Non, un truc. Pardon, mais est-ce que tu t'intéresses à Dean Blunt?
Pas du tout.
Fait un épisode sur Dean Blunt.
C'est qui, c'est quoi,
c'est
Dean Blunt?
C'est un musicien anglais de Londres qui a notamment, tu connais peut-être le projet Baby Father, ça te dit quelque chose, avec DJ Escrow, etc. Non, bon, voilà, ça c'est un truc c'est un artiste qui collabore avec pas mal de gens, qui est très anonyme, très mystérieux, okay, et qui fait à la fois des chansons presque indie rock, de l'ambiance hyper torturée et des trucs dans la lignée de UK Garage. Enfin là, pareil, je fais un peu un résumé hyper rapide, mais c'est pour moi un des artistes, en termes d'artiste individuel, c'est un des mecs les plus importants des 10-15 dernières années. Ouais,
carrément. Okay.
Et bah, limite, parce que j'allais passer au reco.
Il a bossé avec Azaproki, voilà, je voulais.
Ah, très bien. Parce qu'on passe aux recommandations, c'est la tradition, Étienne,
okay,
dans ce podcast.
Il les a fait avant,
avec un morceau.
À vous.
Et bah, non, mais on s'écoute un extrait. Tu veux qu'on mette un extrait de Dean Blunt, si c'est ou tu préférerais autre chose? L'idée, c'est de faire découvrir à nos auditeurs un morceau que t'aimes ou t'as envie de leur faire découvrir, simplement. Voilà. Que ce soit récent, pas récent, peu importe.
Tu me prends.
Alors, on commence avec Daz.
Allez.
Daz, t'as une petite idée de ton...
Ouais,
genre, tu cherches ou tu
non,
l'as
Non, non, non,
ouais,
je,
tu
l'ai là, je l'ai là, je l'ai là. En fait,
dis-nous
je suis tombé dessus un peu au pif.
Ouais.
À la base, j'allais mettre du Victoria Monet, mais non, on va mettre un morceau de MF Doom.
Ouais.
Qui s'appelle Rap Snitch Niches. Parce que je me suis fait attraper par le sample qui ne varie pas pendant tout le morceau, en fait.
Ok.
Et je le trouve phénoménal. Et c'est un sample qui est tiré d'une cover de Space Oddity de Bowie.
Ah.
Par un autre artiste, en fait. Et il y a un riff de guitare dedans. Et Doom, il l'a pris, il l'a bouclé. Et en fait, ça marche trop bien.
Yo. MF Doom.
Mr. Fantastic.
Villain. What up, nigga?
Hey, Nine, what's the word?
It's cracking, boy.
Same old shit, kid.
Man, rap snitches, man. Shit is bugged out, man. What the fuck, man?
She telling me.
Niggas running their mouth. She telling everything.
Critical.
rap snitches, telling all their business. Sit in the court and be their own star witness. Do you see the perpetrator? Yeah, I'm right here. Fuck around, get the whole label sent up for years. Rap snitches, telling all their business. Sit in the court and be their own star witness. Do you see the perpetrator? Yeah, I'm right here. Fuck around, get the whole label sent up for years. Tight profile, low, like A and paid in full. Attract heavy cash, cut the game centrifugal. Mr. Fantastic, long throw like elastic. All my life with twin clocks that's made out of plastic. Can stand up brown nose and nigga fake ass bastard. Admiring my style, tall bust through Manhattan. Plotting, playing the quickest. My flow's the sickest, my hoes be the thickest. My dro, the stickiest. Street nigga,
stamp. Il est fou ce sample. Il est trop bien les grattes là, ultra spatialisés et tout.
Je te ferai écouter l'original du coup, qui est une reprise, mais c'est fou.
Etienne, est-ce que t'as trouvé ton morceau ou j'y vais?
Oui, mais tu peux y aller si tu veux.
Non, vas-y, on écoute. On termine avec ton morceau, ça marche. Moi, ça va pas être un truc extrêmement original, mais en fait, j'ai redécouvert ce morceau et je me suis repris une claque comme quand je l'avais découvert.
Ouais,
c'est du Justice, wow, effectivement. Okay. Et c'est Genesis de Justice. Et en fait, je trouve que ce morceau tue et qu'il y avait toute la patte Justice. C'est un groupe qui m'a un peu déçu avec le temps, pour être honnête, Justice, mais qui m'a beaucoup enthousiasmé lors de sa sortie.
Ils étaient un peu eux-mêmes surpris du succès.
Je sais pas.
Trop d'attentes, trop de.
Ça c'est possible, c'est possible. Ouais. Mais leur premier album est assez fou globalement. Alors moi, j'ai jamais su dans quel. Comme ils n'ont pas réussi à réitérer complètement le truc, est-ce qu'ils avaient été bien accompagnés? Est-ce que c'est aussi tout simplement qu'ils avaient un truc à proposer sur le moment, puis après un peu plus difficile, j'en sais rien. Mais toujours est-il que c'est un groupe qui a été important quand même, je pense, en France.
Ah oui, carrément.
Qui sort bientôt d'ailleurs un nouvel album cette année.
Ça, ouais.
Et bref, j'ai utilisé en fait le morceau pour. Je vous invite à aller voir une vidéo YouTube. C'est le format Sound City, l'épisode numéro 2 qu'on a sorti. On va se balader en fait dans des lieux de musique à chaque fois avec un guide. On a fait ça avec Mehdi Maizi. On allait au Sacré. Et le Sacré, en fait, c'est un club parisien, ex-social club, ex-triptique. Et il se trouve en fait que le premier album de Justice,
ils l'ont enregistré là-bas.
Ils l'ont composé en grande partie, effectivement, dans ces locaux-là. Allez, Genesis, Justice. Sampling est quand même sympathique sur ce morceau.
Moi, ouais, j'aime beaucoup la basse.
Ouais,
slapée, là.
Grave. C'est l'identité de Justice en grande partie. Ça. Ouais,
je trouve que ce côté funk un peu sale est pas sur tous les morceaux. Ouais. Il y a un truc, là j'aime bien le truc. Enfin bref. Ça me... Écoute, moi le morceau que je vais te proposer, c'est la chanteuse Monica. Connue de
avec Brandy, de Brandy Monica.
Oui. Mais voilà, alors voilà une nana qui doit bien se plaindre. Ah. Qu'on lui dise Monica de Brandy et Monica.
C'est dur, mais oui.
En 96.
Ouais.
Elle a eu une carrière solo hyper intéressante et elle a fait un morceau qui s'appelle Knock Knock, comme Knock Knock, qui est une coproduction, si j'ai bien compris, entre Missy et Kanye.
D'accord.
Et c'est une production assez simple, mais vous allez certainement. Pas peut-être reconnaître qu'en fait elle a été reprise quasiment à l'identique par Tyler et A$AP Rocky sur le morceau Potato Salad. C'est ça le morceau qu'ils avaient fait tourner à Paris en 2017, un truc comme ça. Instru très simple, un peu mélancolique et triste, et j'adore ce morceau. Je l'écoute même parfois sans la voix de Monica, tellement je trouve l'instru trop belle. Et je trouve d'ailleurs que les instrus de Kanye, première période, ambiance...
Le old Kanye.
Le old Kanye si vous écoutez les instrus sans rappeur, ouais, en fait, la complexité des arrangements, enfin, il y a des moments où c'est vraiment, c'est complètement autonome, c'est pas du tout des boucles. Et je me dis, avec un destin un peu différent, ça aurait pu être un mec culte à la Dilla, tu vois ce que je veux dire, en termes de découpage de samples.
C'est sa période Chimpunk Soul un peu.
Ouais, c'est ouais, complètement. Ouais, il y a des morceaux plus bourrins, un peu rock, machin, mais il y a genre des dizaines de morceaux et puis produisait à, oui, c'était, avant qui, c'était avant qu'il rappe avant vraiment, perce, en fait. Ouais. C'était ouais, avant College Dropout. Il y a des trucs, il y a des morceaux pour Janet Jackson, des morceaux, bon, il y a l'album de Common qu'il avait produit quasiment en entier et tout. C'est merveilleux. C'est vraiment, c'est une des plus.
De toute façon, Kanye, alors il déconne complet, là, parce qu'il a des problèmes, ce garçon. Mais artiste majeur, artiste majeur, indéniablement.
Ah, moi, je le préfère en tant que producteur de cette époque-là qu'en tant que rappeur. Voilà.
Allez, knock knock, Monica.
Hey yo, mo, open up the door, man. I'm sorry, baby. Hey man, open up the door. You got these dogs out here. They about to bite me, poodles and rabbits and all that, man. Open up the door, man. I'm sorry, man. I love you.
It's funny how the tables turn. Turn, turn, turn.
C'est ajouté direct en playlist, ça tue.
Mais attends, ça a été repris pas que par
pas que par le morceau de Time, je sais, peut-être
No
peut-être.
Worries ou Knowledge ou un truc comme ça là.
Ah ouais, ouais. C'est, ce serait bien son style, ouais.
C'est quoi, c'est assez fin, assez subtil, c'est, en fait, pour ce genre de, tu vois, parfois le R&B il abuse,
ouais, ouais.
Et là c'est
Et il y a une version live quand AOL faisait des lives. Je ne sais pas si vous suiviez cette époque un peu obscure.
J'avais un compte
mais,
AOL.
Mais il y avait des lives, il y avait des sessions live AOL, ouais, où il y avait plein de rappeurs et de chanteuses, chanteurs et chanteuses R&B. Et donc on la voit faire ce live, elle est hyper décontracte et tout. Elle a, j'adore sa personnalité, à Monica. En
fait, ah non, moi je l'ai entendu avec un morceau de Smino, voilà, c'est ça, Noël.
D'accord.
Où il prend la voix, effectivement.
Et un truc que j'adore, c'est là-bas, c'est surmixé. J'adore quand elle est très mise en avant. C'est bien ma cam, ça.
Monica, quoi, incroyable.
Monica.
Qui aurait cru?
Eh ben écoute, knock, knock.
Qui aurait pu prédire?
Étienne Menu, merci beaucoup d'être venu nous voir.
C'était un immense plaisir.
Ouais, tant mieux. Cool. Évidemment, allez checker la revue Audimat, les bouquins sortis chez Audimat, maison de qualité, gens de qualité. Vous allez apprendre forcément des choses. C'est riche, c'est érudit, ça s'intéresse à tout, curieux. Enfin, voilà, génial.
À l'image de,
moi, j'aime
de ce qu'on a eu aujourd'hui.
Je suis peut-être resté un peu, j'ai peut-être été un peu flou sur France et compagnie là, ouais, sur le truc de musique traditionnelle. Donc n'hésitez pas à demander des précisions, je serais ravi de vous les donner de manière un peu plus rigoureuse.
Très bien, très bien. Voilà, c'est là où on voit les gens sérieux, c'est, ils se disent, oh, j'ai pas été assez précis tout à l'heure.
Faut quand même un peu que les gens soient respectés, quoi. Le respect de l'auditeur avant tout.
Ah, très bien.
Et puis aussi Musique Journal, si vous voulez découvrir de la nouvelle musique.
Vous voilà, abonner, parce que c'est une plateforme payante. Enfin, 4 articles gratuits et après, faut s'abonner.
Très bien.
Et n'hésitez pas aussi à taper n'importe quoi dans le moteur de recherche des plateformes pour éventuellement écouter des trucs. Voilà.
Des mots qui vous plaisent. Je sais pas, des mots qui vous inspirent.
Écoute, on trouvera forcément.
Ah bah oui.
Ouais, pire, tu ouvres un dictionnaire au hasard.
Alors, tu tapes.
C'est parti.
Tu tapes.
Merci aussi évidemment à Sam, Iris, Flav pour la technique.
Bien sûr, merci la tech, merci la bouclette.
Et merci.
Thoman.
Merci Thoman, bien entendu. Oui. Ah. Est-ce que tu achètes chez Thoman? Non, c'est une question, on ne peut pas la faire à chaque fois. Comme ça. On remercie François aussi, évidemment.
Mais merci François.
François, à qui on livre des épisodes de 2h30. Là, il m'a dit, bon, faites un peu plus court, les gars, de temps en temps, quand même.
On a fait combien de temps, là, Flav?
Bah, on n'est pas loin des 2h, quand même. Flav, dis-moi, on est à combien? Non, c'est pas vrai. 1h30? Non,
mais,
on est à plus.
Mais il y a 1h30.
Ah oui, voilà,
je me disais, okay,
je me disais, non, on était si fort, on en a 2h.
Oui, parce qu'il nous disait, on est à 1h20, il y a à peu près 30 minutes. Donc ouais, ouais.
Okay. Écoute, il faut vraiment plus qu'on aille au-delà de 2h, parce qu'après, je pense que tout le monde est fatigué.
Oui, ok, c'est noté.
Laissez-le faire gaffe.
Mais on fera ça la prochaine fois.
En tout cas, on se retrouve dans 15 jours, nouvel invité, nouveau sujet, forcément cool.
Ciao.
D'ici là, restez...
Oui.
Cheers.